Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable, entre guillemets ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
Ouais, il y a eu des transferts qui ont amené une certaine émulsion, même s'ils sont remplaçants, même s'ils ne jouent pas beaucoup, les nouveaux joueurs.
C'est même l'émulation, Ricardo.
L'émulation, autant pour moi.
Si j'écoute Docteur Jimmy contre le Barça, s'il revient, il sera en pleine forme.
Non, c'est l'inverse. C'est toi qui penses que c'est un crime de sortir Mbappé et tu me fais passer moi pour un malade en disant ouais, non, il a mis Mbappé de côté, etc.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Salut à tous, c'est Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h sur RMC et même pendant l'Euro exceptionnellement. Et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast avec ce soir autour de la table de Génération, Ricardo Fati. Salut Ricky.
Salut Nico, salut à tous.
Étirement avant ton match pendant 2 heures face à Sofiane Zoui notamment. Salut Sofiane.
Salut Nico, salut à toutes et à tous.
Du Winamax FC et Jimmy Brown. Bonsoir Jimmy.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Jérôme s'étonnait, oui, ben Jimmy, il a double casquette ici. Il a des avis à développer, donc bien sûr, il vient parfois dans Génération After. Il n'est pas uniquement un producteur.
C'est la polyvalence sur
On peut être bon partout, c'est ça la question. Pour Jimmy, oui.
Je pense qu'il est meilleur dans un secteur que dans l'autre, mais j'y rappelle pas.
Ouais, on est d'accord avec ça. Un peu vexant pour commencer.
Donc, t'es très bon dans les deux. Voilà, on est meilleur dans un autre, tu vois. Voilà. Federer était meilleur sur le gazon que sur ta battue.
C'est un peu ça. C'est que toi et moi, on a deux avis différents, donc en fait, il est moyen dans les deux. Quoi.
Ce soir, dans Génération After, ce sera donc la Belgique en 8e de finale pour les Bleus. Est-ce finalement une bonne nouvelle pour l'équipe de France? Tiens, on sera avec un ancien joueur et journaliste désormais belge qui nous éclairera notamment sur l'ambiance au sein des Diables Rouges, Lukaku, le niveau de Lukaku notamment. Ce sera dans quelques minutes. À 20h30, avis de Jimmy qui pense que. Eh bien, comment tu le formules, Jimmy, ton avis?
Ça sent la fin de règne pour Didier Deschamps.
Ça sent la fin de règne. Ouais. Ça va envoyer les amis, là.
20h30, soyez branchés.
Didier, tu vas vaciller à partir de 20h30.
J'aime bien, moi.
On aime beaucoup, et ça a du sens. Vous nous appellerez au 32-16 également pour y participer. 21h, comment vous trouvez cet Euro pour l'instant? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est décevant, à part notamment les histoires roumaines, géorgiennes. Est-ce que vous les préférez, d'ailleurs, au niveau technique, au niveau spectacle de cet Euro? Venez en débattre avec nous au 32-16, expliquer pourquoi on a du mal à s'enflammer. 21h30, grosse, très grosse page Mercato. Ismaël Koné de Watford à Marseille, l'option de la départ de Paulo Lopez, l'intérêt pour Mason Greenwood et Lyon sur le point d'acheter le défenseur central de Nottingham Forest, Moussa Niakate, 31 millions d'euros. Julien Laurence sera avec nous pour nous parler de ces quelques joueurs de Première Ligue qui devraient arriver chez nous dans les prochains jours. Et puis 21h45, le grand rendez-vous, le quiz de l'after. Pour y participer, vous envoyez quiz au 7-32-16 pour gagner un bomber shot. Hein. Quiz au 7-32-16. C'est donc parti pour Génération After, mais d'abord j'accueille Thibaut Jean-Grande. Bonsoir Thibaut.
Salut tout le monde, rendez-vous à 22h pour l'After jusqu'à minuit avec Walid Acharchour et Flo Gautreau ce soir, et invité exceptionnel à 22h, puisqu'on sera avec l'autre sélectionneur français qualifié pour les 8e de finale. Willis Sagnol sera là, je le dirai mieux à 22h, le sélectionneur de la Géorgie. On va revenir avec lui sur le bilan de son premier tour et la projection face à l'Espagne. On va faire le bilan d'ailleurs de ce premier tour avec les drôles de dames hein, qui seront là, toutes les quatre, Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Puis dans la deuxième partie de l'after, full équipe de France, Walid est inquiet de Didier Deschamps également, et Flo Gautreau lui veut Giroud contre la Belgique. Il nous expliquera pourquoi. Rendez-vous à 22h
évidemment. C'est un avis Flo Gautreau, ça, bien sûr.
Ouais.
Éternel.
Avec Walid et Flo.
Fidèle. Rendez-vous à 22h. Merci à toi, Thibaut. Tiens, je vous rappelle également que le prochain match de l'équipe de France, donc lundi 18h, l'after, comme depuis le début de l'Euro, sera délocalisé dans le club qui a vu débuter Aurélien Tchouaméni et qui porte son nom, dont le stade porte le nom désormais, au Mirail, avec la jeunesse sportive d'Artigues, là où tout a commencé pour Tchouaméni. Vous pouvez y aller, bien sûr, pour voir Gilbert, Daniel et ce soir-là, Tony Vérel qui fera le déplacement. L'after, donc n'hésitez pas, de 18h à minuit 30 hein, puisque le match sera également diffusé sur un écran géant. Il faut déjà vous réserver votre soirée du lundi 18h. C'est parti pour Génération After, vous nous appelez au 3216. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After @foot pour nous voir, vous abonner également, vous êtes 167 000 désormais, et commenter dans le chat, les messages apparaissent dans le mur derrière moi. France-Belgique donc, est-ce finalement une bonne nouvelle pour l'équipe de France? C'est les Belges, deuxième du groupe E, battus par la Slovaquie, vainqueur de la Roumanie, 0-0 contre l'Ukraine, 4 points, bilan peu fameux comme nous, pas grand-chose dans le jeu, presque comme nous. Est-ce finalement une bonne nouvelle pour l'équipe de France? Vous nous appelez pour en débat. Tiens, je commence avec toi, Sofiane. Quand tu vois le match de la Belgique hier, tu dis finalement ce sera ça pour les Bleus, est-ce que tu dis que c'est un moindre mal quand tu finis deuxième de ton groupe?
Une bonne nouvelle, j'aime bien la question parce qu'elle est un peu provocatrice et j'ai pas envie de rentrer dans l'arrogance française face aux Belges parce que je sais que les Belges n'aiment pas. J'ai pas peur d'eux, bien évidemment.
C'est vraiment arrogant par rapport aux Belges.
Ouais, quand même, je pense qu'ils pensent ça de nous et je crois qu'ils ont raison. Mais je vais vraiment aller sur l'équipe de France et me centrer sur les Bleus. Et moi, je maintiens que c'est une bonne nouvelle, non pas parce que l'adversaire en face est mauvais. Je pense qu'il a des lacunes. On pourra les détailler tactiquement et aussi sur le côté psychologique. Mais justement parce que je le respecte, je suis content que l'équipe de France ait la possibilité de se réveiller dans un huitième de finale face à ce type d'adversaire. La Belgique, moi je te dis sincèrement, sur la phase de groupe, tu as cité le dernier match, ok, qui est un match de calcul comme beaucoup de grosses nations ont eu d'ailleurs sur leur dernier match, mais moi je trouve leur phase de poule plutôt bonne. La défaite face à la Slovaquie, elle est imméritée, ou en tout cas ils auraient pu au moins avoir un match nul dans cette rencontre. Le match face à la Roumanie, malgré quelques imperfections et quelques lacunes défensives, je trouve que c'est un bon match. Sur ces deux matchs, ils font 36 tirs au global, donc c'est une équipe vraiment que je respecte. Néanmoins, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, parce que historiquement, c'est un adversaire face auquel tu as un avantage psychologique. Ok, sur la Coupe du Monde 2018, sur, on l'a oublié aussi, mais le match de Ligue des Nations, alors que tu étais mené 2-0, tu reviens à 3-2. Donc je pense psychologiquement tu as un avantage par rapport à eux. Je pense que c'est un adversaire aussi, donc tu respectes logiquement parce que c'est un adversaire de qualité. Donc tu vas pas arriver sur un huitième de finale comme ça par dessus la jambe. Je pense que ça va te mobiliser et je pense aussi que tactiquement c'est un, je détaillerai peut-être après, mais c'est un, je trouve un effectif et un 11 qui peut te faire entrer dans une forme de match comme celui face à l'Argentine en 2018.
On va rentrer dans le détail dans un instant, bien
donc
sûr.
Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Ricardo, bonne ou mauvaise nouvelle?
Moi,
pour
je suis un peu à l'opposé de Sofiane, parce qu'il dit que c'est une bonne nouvelle dans le sens où la Belgique a un ascendant psychologique. Enfin, la France, pardon, a un ascendant psychologique. Mais non, moi, je ne trouve pas que la Belgique a fait déjà une bonne phase de groupe. Uh-huh. Bon, moi, ils ont été très moyen, ils se sont beaucoup cherchés, hein. Ils ont changé les joueurs, ils ont changé les dispositifs. Pour moi, c'est une équipe qui cherche. Par contre, la Belgique, c'est une équipe historiquement, je parle pour dans l'Euro, qui a fait deux quarts de finale. Donc je pense que dans les têtes, ça peut s'y jouer.
Oui, mais nous aussi, enfin, nous, on est un bilan Euro.
Oui, aussi, mais après, la Belgique, ça reste une équipe qui sait se transcender dans les phases à l'émission directe. Alors certes, ils ont été pour moi décevants. Hein. Sofiane a dit qu'ils ont été plutôt bons en phase de groupe.
Moi, ils sont mal payés, je dis. Moi, je te dis franchement, ils sont mal payés.
Moi, je te dis sur le fait qu'ils sont mal payés, mais si on dit, pardon, que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si la France avait terminé première à la place de l'Autriche, elle aurait affronté la Turquie, ça aurait été quoi comme nouvelle? Ça aurait été une mauvaise nouvelle d'affronter la Turquie.
Moi, on va me prendre pour un malade mental, hein, de toute façon, mais je vais y aller. C'est que moi, je préfère prendre la Belgique que la Turquie.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je vais aller même aller plus loin. J'aurais préféré même que la France termine troisième comme les Pays-Bas et prenne la Roumanie, puisque tu l'as dit toi-même,
les Belgiques, Roumanie.
Enfin, je veux dire, tu pouvais passer en gagnant contre la Pologne. T'avais une autoroute.
Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Écoute, on est dans un profil de tournoi. Et d'ailleurs, tu auras ton avis tout à l'heure sur Deschamps. Où pour moi, je suis globalement inquiet par l'aspect physique de l'équipe de France.
Alors, parlons de ça, justement.
Voilà, mais justement, ça renforce mon point. Ça aurait été mieux de jouer une équipe plus faible, type Turquie, type Roumanie, pour encore une fois se roder en huitième de finale, rentrer au fur et à mesure, avoir encore une fois un quart de finale abordable derrière. Et
c'est
après,
pas mon avis.
Tu peux monter en puissance, tu vois. Là, c'est tout de suite dans le dur.
Pour moi, t'es plus dans une réflexion de rodage. Pour moi, là, t'es dans une réflexion de quitte ou double. Je préfère que la France soit dans cette réflexion-là parce que physiquement, j'ai été très inquiet de ce qui s'est passé du côté de l'équipe de France sur les trois matchs. Néanmoins, je pense que quand même, au sortir de ces trois matchs, je peux dégager. Alors, il me satisfait pas complètement, mais le 11 des Pays-Bas, pour moi, avec Mbappé intégré, pour moi, le 11 des Pays-Bas, c'est celui-là face à la Belgique. Donc, j'ai le 11 à peu près. Je pense que physiquement, il y a un problème du côté de l'équipe de France. Je crois que même Griezmann ne l'a pas nié avant le début de la compétition. Mais tu as besoin de cet affrontement coup de fouet pour lancer ta compétition. Pour moi, je suis vraiment dans une optique de quitte ou double. Donc la Belgique, pour moi, est un adversaire qui
t'impose un sérieux, parce que c'est un grand adversaire, quoi qu'on en dise, c'est une grande nation, mais qui a aussi des lacunes qui peuvent te convenir. Donc pour lancer une compétition qui pour moi est une compétition où on dort encore, j'ai envie de cet affrontement-là, ce qui ne veut pas dire qu'on va gagner. Si on se fait taper, si j'ai une émission ici, je reviendrai et on fera le bilan sur ça. Mais je dis simplement que moi j'ai besoin d'être réveillé, et je suis plus réveillé par la Belgique en 8e que par la Turquie.
Faisons l'exception de 2018 où effectivement, tu t'en parlais tout à l'heure, c'était France-Argentine, c'était un match dingue, etc., où tu affrontes une grosse nation. À chaque fois que la France est allée loin dans les compétitions, le 8e de finale en 2016, tu joues l'Irlande à l'Euro.
Où t'as du mal.
Tu vas même sur l'Islande en quart de finale.
Et t'as du mal.
Oui, t'as du mal.
L'Irlande.
Mais tu passes. Ouais, ce que je veux dire, ouais, c'est que 2022, là, au Qatar, tu joues en 8e de finale la Pologne, qui est un 8e de finale abordable, qui te permet de monter en puissance et d'arriver fort ensuite contre l'Angleterre. Tu passes dans les conditions dont on se souvient.
Mais je pense que ça va être un profil de match
dur,
Argentine.
L'adversaire le plus dur qu'on ait eu récemment, c'était peut-être la Suisse en 2021. Et puis tu t'es arrêté. Moi, quand tu me dis qu'en face tu pouvais tirer la Turquie, franchement, la Turquie, ils ont un soutien populaire. Moi, j'adore leurs joueurs. Ils ont une équipe jeune, etc.
Ouais, c'est très
dynamique. C'est incomparable à la Belgique.
Mais
pour
bien
moi.
Sûr.
Et la Roumanie, idem.
Évidemment que la Belgique est meilleure que la Turquie. C'est pas ça la question.
C'est un match très risqué. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle parce que je vois pas l'équipe de France prête pour affronter une telle adversité. Parce qu'on n'arrête pas de dire les Belges sont passés à côté de leur phase de poule. Les Bleus ont une marge de progression, etc. Je pense que les Belges aussi ont une marge de progression. Il y a des super individualités dans cette équipe-là qu'on n'a pas vu le Lukaku qu'on peut voir, qu'on n'a pas vu un De Bruyne extraordinaire, qu'on verra peut-être pas. Mais
Jimmy, on en parle dans un instant.
On va devoir la fin.
Avec Fred Wasseij, journaliste belge qui a été le meilleur consultant en foot belge il y a 3 ans. Il sera avec nous dans un instant.
Incroyable.
Avec
palmarès.
C'est un palmarès incroyable. Il était joueur aussi.
Il est toujours énorme, Fred.
Excellent. C'est une des voix importantes de la RTBF, la chaîne principale. Ouais. Restez avec nous, avec Ricardo Fati, Jimmy Brown et Sofiane Zouaoui. On revient dans un instant. La Belgique est finalement une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Appelez-nous au 32-16 également. Vous êtes nombreux à réagir sur le chat. Hein. En Gange, je vous dis, ils n'ont pas battu la Pologne, déjà éliminée. Ils vont encore sous-estimer la Belgique, prendre une clim. Les Français, restez avec nous.
C'est pas ce qu'on
débat dans un instant, à tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Ricardo Fati et Sofiane Zouaoui. Merci d'être avec nous ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'il y aura le quiz de l'after à 21h45. Vous pouvez envoyer quiz avec un seul Z au 732-16 pour y participer. Le vainqueur, celui qui choisira la bonne équipe, surtout, gagnera un bomber shot.
Qui vient? Qui est le quatrième?
Il me faut Walid en face pour finir la saison.
Walid sera là.
J'ai mis une tenue de
Walid c'est sera là.
Que je sache avec qui je gagne.
Il y aura un duo, je pense. On va faire quoi? Sofiane Walid? Jimmy, Sofiane, Ricardo,
ouais.
Walid.
Ouais, vaut mieux.
Pas mal.
Excellent.
On a gagné alors, c'est bon.
Mais si on accueille un des consultants les plus populaires en Belgique, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'after, Fred Wasseij est avec nous. Salut Fred.
Salut messieurs.
Heureux de t'accueillir dans l'after. On est très heureux, je rappelle, ancien joueur professionnel, consultant Diable Rouge pour la RTBF. Fred, tu as une question déjà. Comment est l'ambiance là autour de la sélection belge, que ce soit en Belgique ou les supporters qui suivent la sélection? Bon, il y a l'image, la scène qui est un peu marquée là, après le 0-0 contre l'Ukraine. Les joueurs belges qui se dirigent vers leurs supporters. Ils sont sifflés, finalement ils rebroussent chemin. Est-ce que ça raconte vraiment l'ambiance autour de la sélection?
Vous savez, nous sommes le pays du surréalisme et on a été fidèle à notre réputation. Quoi. Donc c'est absolument ahurissant qu'une équipe qui se qualifie se fasse siffler par ses supporters. Je ne pense pas que ça aurait une incidence sur les joueurs belges, si ce n'est que ça va encore un petit peu plus les pousser à remettre les choses au point. Et il se fait que le prochain match, c'est contre vous. Mais c'était complètement fou parce qu'on a eu l'impression que ce match contre l'Ukraine, les Belges nous ont joué pour se qualifier, pas pour gagner. Alors que tout le monde savait que si on ne gagnait pas, on allait se taper la France. Et tout le monde, je pense, la frustration des supporters, c'est qu'on sait que la France, c'est du très très costaud. Donc les supporters n'ont pas bien compris qu'en fin de match, un mec comme De Bruyne, donc De Bruyne, c'est le symbole, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du beau football, du football vers l'avant, de la classe, de la technique, il aille dans le coin, du côté du coin de corner, pour gérer deux coups de coin, pour gagner une minute. Donc je pense que la frustration des supporters est née avec cela, et je pense que la réaction de De Bruyne, c'est quand même complètement fou, quoi. Il dit à ses coéquipiers, ben, puisqu'il nous cite, on rentre au vestiaire, on ne va pas les saluer. Maintenant, mettez-vous à la place de joueurs de football qui n'ont pas été bons, certes, mais qui ont fait des efforts, qui ont couru dans la chaleur. Donc voilà, donc je comprends aussi bien les supporters que les Belges, mais je pense que cette scène surréaliste va donner un petit plus à nos joueurs qui vont vouloir vraiment prouver que quand ils le veulent vraiment, ils peuvent le faire.
Fred, tiens, on faisait un débat là avec Jimmy, Ricardo et Sofiane. Est-ce finalement une bonne nouvelle pour l'équipe de France, un deuxième de son groupe et qui rit de la Belgique? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je te pose la question à toi en tant que Belge également. J'imagine qu'on ne dit pas que c'est une bonne nouvelle l'équipe de France, mais est-ce qu'on a vraiment peur de cette équipe de France au regard de ce qu'elle a fait sur son début d'Euro?
Si on regarde ce qu'elle a fait au début de l'Euro, oui et non. Mais peur, certainement pas, parce que la peur n'est pas un sentiment qu'un footballeur doit ressentir avant un match de football. Je veux dire, c'est pas la guerre quand même. Hein. Donc, de la peur, j'ai l'impression que de tous les Belges, ce sont les joueurs de l'équipe belge et leur staff et leur entraîneur qui ont le moins peur de cette équipe de France. Bon, il ne faut pas être présomptueux, mais je ne ressens pas du tout cela quand je vois les réactions des joueurs après le match. Maintenant, tout le monde est conscient que même si la France n'a pas été très séduisante, ça reste du très, 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 très costaud. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous avez un noyau là, absolument incroyable. Vous avez doublé et triplé les postes. Il peut y avoir 2 blessés, 3 blessés, vous serez toujours aussi fort. Donc voilà, de la peur, non, certainement pas. Mais enfin, moi, en tout cas, nous sommes très, très conscients de... Parce qu'au niveau, allez, franchement, au niveau athlétique, au niveau physique, au niveau technique, vous êtes quand même au-dessus.
Mais Fred, ce qui est bizarre, c'est qu'au-delà de la peur, tu avais l'impression que tu le disais toi-même, ils savaient très bien, les Belges, qu'en faisant match nul, ils avaient joué l'équipe de France. Donc en n'attaquant pas sur cette fin de match, tu avais l'impression qu'ils avaient envie, en fait, d'aller droit sur les Bleus en huitième de finale. C'est même pas de la peur, c'est qu'il y avait presque une volonté d'en découdre avec l'équipe de France.
Non, pas
ça. Bah, écoutez, si c'est votre ressenti, moi je ne peux pas imaginer cela. Parce que franchement, il n'y a pas que l'équipe de France, il y a tout le tableau de gauche, ouais. À part vous, il y a encore l'Espagne, il y a encore l'Angleterre, il y a encore beaucoup de ténors. Voilà, c'est ça qui était complètement incompréhensible pour nous, les analystes, et pour le public. Mais voilà, c'est pas, soit ils sont très sûrs d'eux, soit, je sais pas, on leur a mis une nouvelle disquette dans le cerveau, comme quoi, match par match, on verra bien ce qui arrive après. Moi, ce que je retiens, c'est après, quand on a vu, là, quand ils se sont rassemblés au milieu de terrain, on a vu De Bruyne qui a dit, les gars, je vais pas vous dire en anglais ce qu'il a dit, mais ce prochain match, on va aller le gagner, quoi. Donc, ils sont, ouais. Voilà, ils sont plutôt sûrs d'eux, mais je ne peux pas imaginer une seconde qu'ils l'aient fait exprès de se taper la France en huitième de finale, parce que je pense que c'est vraiment un très mauvais calcul.
Non, mais il y a une donnée aussi qui, Jimmy, tu le sais très bien, c'est que au-delà, moi, je valide pas du tout leur approche sur la fin du match. Fred parlait du dernier corner, notamment joué dans le coin. Moi, c'est pas celui-là qui me choque. C'est un à la 87e où ils le jouent à deux et ils reviennent sur le gardien de but tout derrière. Ils avaient été sifflés à ce moment-là. Mais il y a une donnée à prendre en compte sur ce fameux troisième match, c'est que s'ils prennent un but contre l'Ukraine,
ils sont dehors,
en fait. Je valide pas du tout l'approche, encore une fois, mais je peux entendre aussi que de la part de joueurs responsables, il y a un sentiment de peur, et surtout sur la phase de groupe de la Belgique, elle a quand même été symbolisée par une chose, et je le répète, c'est que il y a eu quand même un manque de chance, ou en tout cas une équipe un peu mal payée. Je dis pas qu'ils ont tout bien fait, mais c'est quand même une équipe qui prend 0 point face à la Slovaquie, ce qui est complètement lunaire. C'est une équipe qui peut repartir du match face à la Roumanie, alors qu'ils le dominent globalement avec un match nul. Bon, ils s'en sortent plutôt bien. Donc j'entends, moi, cette idée aussi, ils ont des moments de malchance. Lukaku, les 2 buts refusés, notamment avec une main de Doku qui sont allés chercher je sais pas d'où. Donc voilà, et puis c'est une équipe, Fred le sait très bien aussi, c'est une équipe qui a pas encore de certitude, c'est un creux, pas un creux générationnel, mais en tout cas c'est un mélange de 2 générations, ouais, donc ils sont pas encore dans une certitude, et c'est pour ça que je pense, moi je rentre ça dans l'équation, que pour les Bleus c'est un bon tirage tout en les respectant.
Fred, qu'est-ce que tu penses du début d'Euro de Romelu Lukaku?
Ben, Lukaku, s'il n'y a pas le VAR, il est le meilleur buteur de l'Euro, hein.
Voilà.
Ça s'est joué une fois à 1 millimètre, une fois à 1 centimètre, et une fois, comme vous disiez très justement, c'est Openda, hein, qui commet, enfin, c'est même pas une faute de main. Le bout de son ongle a effleuré.
Ouais, c'est loin. Lunaire, c'est lunaire.
Ce qui dénature complètement le football, qui est vraiment, c'est à pleurer, quoi. Je veux dire, faut arrêter avec ça, sinon, qu'on fasse des euros à la PlayStation, quoi, qu'on arrête de laisser les humains. En plus, il est bousculé par son défenseur, quoi. Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, voilà, Lukaku, pour moi, bon, hier, c'était pas terrible, mais hier, il faut, franchement, si j'ai un conseil à donner à votre coach, c'est qu'il y a hier, comment les Ukrainiens ont isolé De Bruyne et Lukaku, ils vont faire merveille. Donc, voilà, Lukaku, pour moi, je vous dis, s'il n'y a pas le 20 avec 2 millimètres, avec une fois 2 centimètres, il est meilleur buteur de cet euro. Donc, c'est un garçon qui est fiable. C'est un garçon qui est d'ailleurs sur l'assise sur Tielemans contre la Roumanie. Je sais pas si c'était au millimètre, c'était une perfection en pivot, c'était magnifique. Donc moi, je me tracasse pas du tout pour Lukaku. Il est pas en réussite hein, au niveau des buts, mais ça peut venir à n'importe quel moment. Je veux dire, c'est comme un peu chez vous. Vous créez beaucoup d'occasions. La Belgique se crée beaucoup d'occasions. On marque pas beaucoup, mais savez comme moi qu'en football, il suffit très peu de choses, d'un petit déclic pour que ce soit l'avalanche. Je veux dire que d'un côté comme de l'autre, de la France et de la Belgique, il y a du potentiel. Je veux dire, la France a quand même tiré 49 points au but depuis les 17 euros. Ok, ils n'ont pas encore marqué un but eux-mêmes depuis la Juve, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se tracasser. À un moment donné, ça va rentrer. Et je pense que la concentration et l'envie de passer en quart de finale va être telle que d'un côté comme de l'autre, toutes les petites choses, les petits tirs qui passent à 5 minutes à côté, ça peut rentrer. Donc je pense que les deux équipes ont produit quand même pas mal de choses. J'ai envie de vous dire, je me suis plus intéressé à la Belgique, on a produit beaucoup de choses, beaucoup d'occasions.
D'accord.
Donc voilà, à un moment donné, ça va rentrer.
Fred, merci beaucoup. On était que heureux, comme à chaque fois, de t'accueillir dans l'after. Hein. Tu seras à Düsseldorf lundi ?
Non, moi, je suis en plateau. Moi, je fais
un
plateau. Tu vois, tactique et tout ça, donc je suis en plateau en Belgique.
Eh bien, on regardera avec attention ton analyse du match lundi soir sur les coups de 20h. Merci à toi, Fred.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée. Et merci à la RTBF également. Tiens, écoutons Thomas Meunier, qui était en conférence de presse aujourd'hui. On lui a demandé comment il comptait battre les Bleus, sa réponse.
On doit jouer. Il va falloir jouer un jeu offensif, mais contrôlé, un bon bloc équipe, en fait, que ce soit offensivement ou défensivement. Moi, je pense personnellement que le match de lundi sera un match assez intéressant à regarder. Il y a plus cette peur ou cette crainte qu'il pourrait y avoir, comme dans un dernier match de poule. Tu donnes tout ou tu sors, quoi.
Bon, Ricardo, je vais accueillir avant de te donner la parole Juliane également, qui est avec nous. Salut, Juliane.
Salut.
Supporter de la Belgique, hein, tu vis à Liège. On est heureux de t'accueillir. On est avec Fred à l'instant. Lui, il a une approche assez, pas dire optimiste, hein, tant pour les Bleus que pour l'équipe pour les Diables Rouges. Comment tu juges, toi, l'Euro des Belges pour l'instant?
C'est une des pires compétitions que j'ai vu des Belges depuis longtemps. Je suis d'accord avec lui quand il dit que Lukaku et Thiago est dans sa nullité, dans le fait de ne pas marquer. Parce que je suis désolé, Lukaku, il marque contre Samara, contre Luxembourg, il marque en amico, mais j'aurais bien aimé lui poser la question, quand est-ce qu'il a marqué contre une grosse équipe ou en phase d'élimination directe.
C'est vrai qu'il fait aussi une Coupe du Monde catastrophique, Lukaku, on s'en rappelle. Hein. Pléthore d'occasions, gros manque d'efficacité.
Ouais, Julian, entre ce rôle-là et la Coupe du Monde 2022, ça peut jouer, parce qu'ils n'ont pas été très très fameux non plus à la Coupe du Monde, hein, les Belges. Hein.
Ouais, si tu fais la comparaison, pour moi, il y a...
Ah oui.
Je peux comprendre ta déception, mais tu vois, sur Lukaku, pour le coup, on peut très bien mettre en avant son côté un petit peu gauche par moment.
C'est quand même très très lourd, cette tour, très emprunté, quoi.
Franchement, il y a deux buts.
La remise sur Tillemans, il faut la mettre quand même.
Exactement, déjà, dos au jeu, je trouve qu'il est plutôt utile, le but de Tillemans, c'est lui.
La remise... Il fait une remise à 50 cm. Encore heureux qu'il arrive à faire ça.
Non, mais je peux entendre ta frustration. Mais tu sais, dans cette compétition, les numéros 9 qu'on attend et qui sont pas au niveau, je peux te dire que j'en mets beaucoup, beaucoup avant lui, ou pire, si tu veux la réflexion. Mais sur le match, notamment contre la Slovaquie, je suis désolé. Il est à la retombée des actions. Il peut en mettre un ou deux face à la. J'ai oublié l'action où il est à 2 cm du hors-jeu sur la passe de De Bruyne, où il va marquer son but d'ailleurs, je crois que c'est le 2-0 contre la Roumanie. Tu vois, moi je peux entendre le côté un peu gauche, mais je te trouve un peu sévère.
Vas-y, Julien.
Alors, en 2018, à la Coupe du Monde, il s'est éteint à partir de la phase d'élimination directe. En 2021, rappelez-vous du match qu'il a fait contre l'Italie, où il rate à 30 cm du goal vide.
Ouais.
Il y a deux ans contre la Croatie, les ratés qu'il a fait, je ne comprends pas. Je comprends pas.
Julien, forcément, si on prend action par action, Lukaku, c'est pas le joueur le plus fin du football moderne, mais après, ça reste un joueur très précieux dans l'impact, dans le fait de plus sur la défense. Moi, je pense que justement, le fait de jouer contre la France, il y aurait une stimulation en plus, et au-delà de Lukaku, moi, je pense que les Belges, d'ailleurs, je voulais en parler à Fred Wassej juste avant, tu penses pas justement que ça peut être le match parfait pour les Belges pour se relancer, pour se réveiller, entre guillemets, parce que nous, c'est ce qu'on espère de la France, mais je pense que du côté belge, ça peut être le cas aussi, hein, avec des joueurs qui connaissent, Meunier qui connaît très bien aussi les Français, voilà, c'est cette rivalité, on va dire, un peu historique, géographique, tout ça, mais je pense que ça peut servir aussi de réveil pour ces Belges, tu penses pas?
Mais ce qui me donne espoir, en fait, c'est entendre chez Jérôme Rotten, par exemple, dire que ça va être facile, ou voir tous les Français qui reparlent de somme et tout ça, je me dis bah le karma va peut-être frapper, mais en même temps
ça c'est quoi, normal, tu nous connais Julien.
On est un petit peu arrogant nous Français, tu le sais hein Julien.
Guerre, mais je veux dire quand vous voyez la défense qu'on a, je
après, faut pas se formaliser sur ça.
Là, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, par contre.
Mais
c'est mon gros point d'interrogation, cette défense.
Sur le banc.
Mais bien sûr, c'est la défense. Et aussi, moi, ce que je disais, qu'on peut rentrer dans une forme de match à la France-Argentine. J'imagine pas un 4-3 dans cette rencontre non plus. Mais je me dis, par rapport aux Belges et à ce qu'ils ont subi, notamment face à la Roumanie, sur quelques transitions, face à la Slovaquie, sur quelques transitions aussi, la Belgique, en fait, elle a un double pivot avec un joueur que j'aime beaucoup, c'est Amadou Onana, ouais. Hein, mais qui est un joueur qui, parfois, notamment, il a eu une petite erreur face à la Roumanie, qui, parfois, déconnecte un peu des rencontres, qui est parfois un peu irrégulier. À côté de lui, ils ont testé Mangala, que je connais bien, à l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas été fameux non plus. Et Tielemans, qui est un joueur que j'aime bien aussi, mais c'est un double pivot qui est capable, si le premier pressing est cassé du côté de la Belgique, on est capable d'avoir des transitions dans cette rencontre-là. Nous, on n'est pas fameux aussi sur certains aspects du jeu, mais je crois qu'on peut leur faire mal sur cet aspect des transitions. Donc je pense que ça peut être un match ouvert aussi dans ce côté-là. Et la Belgique, pour moi, a le joueur en attaque le plus déstabilisateur de l'Euro, qui est Doku, que j'aime beaucoup, même avec du déchet, mais c'est un joueur qui fait très très mal. Donc on peut rentrer dans une forme de match assez ouvert par moment en transition, mais je crois que ça peut profiter à l'équipe de France.
Julien, merci d'être venu dans l'After. T'écoutes l'After régulièrement depuis la Belgique?
Tous les matins en podcast, oui. Super. En télétravaillant.
C'est sympa. Écoute, on t'envoie un t-shirt, hein, de l'After, si ça t'intéresse. Voilà, Max prend ton adresse et il t'envoie ça. C'est un plaisir de t'accueillir, Julien. Bon match lundi soir.
Ouais, merci.
T'inquiète pas, kiffe un peu, ça va bien se passer.
Mais oui,
on va passer un bon match.
Je suis réaliste.
Hein.
Avec la chèvre devant, ça va pas aller.
Oh, c'est dur, échange. Si tu veux, on fait un échange. Hein. Moi, je suis chaud. Hein.
Il y a beaucoup de messages qui disent sur le chat qui disent je préfère, j'imagine plus de Lukaku marqué que Marcus Thuram.
Bon, ce sera pas Thuram, ce sera Rabiot à gauche et Mbappé en pointe. Mais si tu veux, on fait un échange. Hein.
Mais franchement, quand vous voulez, les stats le montrent. Hein, ouais. On marque jamais en phase d'élimination. Donc,
je comprends le côté frustration. Ouais.
Merci Julien, très bonne soirée à toi. Très vite sur RMC. Bonne soirée. Dans un instant, les amis, l'avis attendu de Jimmy Brown. Ça sent la fin de règne pour Deschamps. Pour réagir également à l'avis de Jimmy, on sera également avec un de nos reporters équipe de France en Allemagne. Reste avec nous, ces générations After sur RMC, 20h31. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Jimmy Brown, Sofiane Zouaoui et Ricardo Fati. On est ensemble jusqu'à 22h. On fera une grosse page mercato dans la deuxième heure. Hein. Marseille, Lyon, beaucoup d'infos à vous donner. Ces deux clubs sont en train de s'agiter en coulisses et en voie du lourd en plus. Hein. Je parle d'argent. Ce sera à partir de 20h, 21h20. D'abord, l'équipe de France. Bonsoir, Arthur Perrault.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Salut, reporter équipe de France en Allemagne. Arthur, entraînement des Bleus à 17h30. Que faut-il retenir?
Eh bien que globalement ça a été un entraînement assez léger. D'abord pour les titulaires de la dernière rencontre face à la Pologne, ils ont eu le droit à un léger footing. Ensuite ils ont participé à une toute petite opposition, mais voilà, entraînement très très léger pour eux. À l'inverse, pour les remplaçants ainsi que Kylian Mbappé, eux ils ont fait du fractionné. On a vu une nouvelle fois le capitaine de l'équipe de France gêné par son masque une nouvelle fois, et Didier Deschamps l'avait bien dit en conférence de presse de veille du dernier match que la transpiration et la visibilité le gênait encore un peu avec ce masque. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est celle concernant Kingsley Coman, qui avait donc quitté précipitamment l'échauffement lors du dernier match à Dortmund. Pourquoi? Parce qu'il avait été victime d'un torticolis. Bon, très clairement, depuis le début du rassemblement, il traîne plein de petits pépins physiques. Et voilà, là il semble débarrassé. Il était bien de retour à l'entraînement, aux côtés notamment de Adrien Rabiot, William Saliba, Dayo Upamecano ou encore Ousmane Dembélé. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a donc eu cette petite opposition en fin de séance, et qu'on a vu un Olivier Giroud très à l'aise inscrire un doublé, et on a aussi vu Antoine Griezmann remporter le traditionnel jeu de frappe, vous savez, en fin de séance, où c'est celui qui réussit à enchaîner le plus de buts d'affilée qui remporte ce jeu. Et c'est donc Antoine Griezmann qui a remporter cet exercice avec 4 buts d'affilée.
Je peux lui poser une question.
Vas-y, Sofiane.
Ouais, Arthur, bonjour. Je voulais savoir juste, toi, comment tu ressentais l'ambiance comme ça, là, de l'extérieur?
Alors c'est vrai qu'on a surtout prêté attention à cela dans cette séance cet après-midi. Alors d'abord on va rappeler ce qui s'est passé ces deux derniers jours pour l'équipe de France. Les familles étaient présentes à leur camp de base jusqu'à ce midi. Elles ont pris la direction de Paris vers 13h en avion. Donc on sent que ça fait beaucoup de bien au moral des troupes. On a aussi eu le droit à une conférence de presse en présence de Dayo Upamecano et William Saliba qui sont déjà venus face aux médias. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi eux? Parce qu'ils s'expriment très bien, qu'ils savent verrouiller et peser le moindre mot, et tout simplement parce que eux ne sont pas remis en question et ne font pas partie de ces remplaçants qui peuvent être amenés ces derniers jours à exprimer un peu leur mécontentement, puisque comme on vous l'a révélé chez RMC Sport, voilà, ça fait plusieurs semaines que certains joueurs se sentent un peu à l'écart, notamment des remplaçants. Mais du côté de l'équipe de France, et c'est ce qu'on nous a redit aujourd'hui, Sofiane, c'est presque une bonne chose. Voilà, on se réfugie derrière l'argument que eh bien il y a des remplaçants qui veulent jouer, qui veulent absolument jouer, qu'ils l'expriment et que Didier Deschamps doit tout simplement faire un peu plus de social. Et c'est certainement ce qu'il a fait là ces deux derniers jours, en s'appuyant sur le fait que eh bien, les familles étaient là et que ça a fait du bien à son groupe.
Justement, tu vas rester avec nous, Arthur Perrault. Jimmy va développer son avis, qui pense que ça sent la fin de règne de Deschamps. Écoutons notamment une déclaration étonnante dans un management, dans un groupe France mené par Deschamps, celle de Youssouf Fofana. C'était après le nul face à la Pologne.
L'intensité, elle est différente des entraînements et il y a peu de marge entre les deux matchs, donc c'est compliqué de travailler physiquement. Après, il faut s'adapter aussi aux coéquipiers. Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch, mais si tous les autres ne me suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul. Donc il faut s'adapter quand même à ceux qui sont autour de vous.
Voilà, si les autres ne suivent pas, je peux pas attaquer tout seul. Petite sortie de piste peut-être, ou simple spontanéité, honnêteté.
Écoute, c'est pas le premier. Hein.
C'est pas le premier à le dire, on va en parler dans un instant. C'est inhabituel dans une compétition estivale menée par Deschamps. Écoutez d'abord le jingle Jimmy, avant son avis.
Comme il y a Jimmy dans l'After Paris, là, c'est juste pour savoir si il a fini de sécher ses larmes du départ de Messi, Neymar et tous les tocards qu'il aimait bien l'année dernière. Là.
Incroyable de dire Messi, Neymar et Tocard dans la même phrase, c'est fou. Bref, c'est pas l'objet du soir. Non, sur Didier Deschamps et sur cette équipe de France, moi, il y a plusieurs choses qui me paraissent bizarres depuis le début de l'Euro. Je sens une atmosphère inhabituelle à plusieurs niveaux. Le premier, là, on en parlait il y a un instant avec Arthur. Le credo de Didier Deschamps sur toutes les compètes depuis qu'il est sélectionneur, c'est la force du groupe. C'est on choisit un groupe solide pour passer un mois ensemble parce que c'est très important. On prend pas forcément les meilleurs joueurs, on prend le meilleur groupe. Aucune tête qui dépasse. À chaque fois que tu allais loin dans les compétitions, il y a eu très peu de polémiques. Là, depuis le début de l'Euro, elles se multiplient. En fait, c'est pas des grosses polémiques, mais il y a des bruits de couloir. On entend des choses, on lit des choses. Il y a eu après le premier match très étonnant Warren Zaïre-Emery qui a laissé filtrer son mécontentement parce que il n'avait pas un rôle assez important alors que c'est le gamin du groupe, ouais. Que c'est celui s'il y en a un qui devrait rien dire, c'est bien lui. Ensuite, il y a eu l'épisode Antoine Griezmann, j'y reviendrai un peu plus en détail dans un instant. Il y a eu là, le déclin qu'on vient d'entendre quand même de Fofana. Moi, jamais sous Didier Deschamps, j'ai entendu dans un tournoi un joueur dire moi je peux pas tout faire tout seul, je peux pas rentrer s'exprimer de la sorte. C'est très étonnant. Il y a eu la déclaration de Didier Deschamps en conférence de presse avant la Pologne sur Antoine Griezmann où il dit Antoine, on sait que quand l'intensité monte, il est un peu en difficulté alors que Deschamps, s'il a une règle de base, c'est de toujours défendre son groupe, du moins publiquement, sans jamais laisser filtrer quoi que ce soit auprès de la presse. Il y a eu les états d'âme de Giroud qui aimerait bien jouer un petit peu plus. Il y a, on le sait, alors ça va m'amener à aborder un deuxième aspect, c'est que tactiquement, sous Didier Deschamps, on sait que il se rôde souvent pendant la compétition, c'est une réalité. Rarement, il a démarré une compétition avec une équipe et fini avec la même.
Même 11, ouais.
Mais pour autant, la plupart du temps, exception faite peut-être de l'Euro 2016 où il réajuste à la mi-temps, souvenez-vous d'Antoine Griezmann qui passe en 4-2-3-1 parce qu'on avait démarré avec Matuidi milieu droit, Pogba milieu gauche, etc. Mais sinon, dans la phase de groupe, il trouve son 11. Là, il tâtonne encore contre la Pologne. On n'a pas vu de hiérarchie se dégazer. Moi, je sais, sous le contrôle d'Arthur, mais je suis incapable de dire aujourd'hui. Toi, Sofiane, tu disais probablement qu'il va partir avec l'équipe qui a joué contre les Pays-Bas.
Pays-Bas avec Mbappé à la place
Thuram, pour Thuram.
Ouais, je pense.
C'est pas sûr en bleu. Hein.
Moi, je suis pas sûr de ça.
J'imagine.
Il y a un tâtonnement. Ça, c'est le deuxième aspect, c'est tactique. Il y a la com de Deschamps qui est inhabituelle. Moi, quand je l'entends dire après la Pologne, bon, on est qualifié, c'est le principal, alors que tu sais très bien qu'il doit être dégoûté quand tu vois l'autre partie de tableau où tu avais un franchement, encore une fois, un boulevard pour moi, et tu te retrouves dans une partie où tu vas devoir jouer la Belgique, puis si tu passes le Portugal, puis si tu passes le vainqueur d'Allemagne-Espagne, puis encore éventuellement aller chercher une finale. Et attention, en disant ça, je dis pas que l'équipe de France va pas réussir son Euro, mais j'ai l'impression que même s'il gagne l'Euro, en fait, Didier Deschamps, il y a quelque chose de cassé. Moi, je l'imagine pas aller beaucoup plus loin. Il y a aussi un autre aspect, c'est les cadres sur lesquels il s'appuyait, qu'il a perdu en fait. Il a plus ses cadres qui étaient Pogba, qui étaient Varane, qui sont partis, les cadres qu'il a aujourd'hui, qu'il est censé avoir. Lloris aussi, ouais, je l'ai pas cité effectivement. Ouais. Les cadres sur lesquels il devrait s'appuyer aujourd'hui, c'est Giroud, mais on sent bien qu'il est pas dans sa forme optimale. Moi, il a fait une grave erreur, je pense, en termes de management, c'est de pas avoir donné le brassard à Antoine Griezmann, et encore plus dans cet Euro, d'avoir fait trinquer Griezmann après le deuxième match, de l'avoir sorti. Le fait de responsabiliser autant Mbappé, ça l'a emprisonné dans quelque chose en fait. C'est que tactiquement, tu te dois de mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Mais tu as bien vu, on a tous vu contre la Pologne que ce Kylian Mbappé là, c'est pas le Kylian Mbappé qui va te permettre de gagner l'Euro. C'est pas le Kylian Mbappé qui te fait des appels en profondeur. C'est un Kylian qui veut beaucoup participer au jeu, redescendre, etc. Donc voilà. Okay. Et dernier point simplement. Pourquoi je pense que ça sera la fin pour Deschamps après cet Euro, qu'il aille loin ou pas, c'est qu'on sait qu'il avait une obsession, c'était d'effacer la cicatrice de 2016. Il a pas réussi en 2021, il a une nouvelle opportunité là. La Coupe du Monde, il a gagné, il a fait finale. Je veux dire, la qualité de l'entraîneur n'est pas en cause, mais je pense qu'au terme de cet Euro, il aura fait ce qu'il avait à faire avec l'équipe de France, et qu'il y a une espèce de page qui se doit d'être tournée, je pense.
Bon, je rappelle que Deschamps est sous contrat hein, jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde de 2026. Hein, Philippe Diallo l'avait rappelé, quoi qu'il arrive.
Contrat signé par Noël.
Voilà, on ne lâche pas un homme qui a tant prouvé, tant fait en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Un instant, Jérôme sera avec nous. Qui veut réagir?
Ouais, vas-y, Nico.
Ricardo.
Je suis d'accord avec Jimmy, surtout sur le côté de la com. J'ai l'impression, après c'est encore un corner extérieur, que c'est la première fois que Deschamps n'est plus dans le contrôle en fait. Même durant l'Euro 2020-2021 où il perd contre la Suisse, bon, un coup du sort, penalty, tout ça, tir au but, j'ai l'impression que là, il est pas perdu, mais j'ai l'impression qu'il ne maîtrise plus, on va dire, les éléments extérieurs et même internes, à même intérieur, c'est-à-dire que par rapport à son système, par rapport aussi à ses cadres fragilisés comme Griezmann, Giroud, tu l'as très bien dit, Jimmy, mais j'ai surtout l'impression que pour la première fois, il n'arrive plus à tenir ses joueurs. Il y a aussi Tchouaméni hein, qui avait discuter le fait de bien jouer, de mal jouer. Il avait émis, sans le dire clairement, mais il avait émis un petit doute dans le sens où il aurait aimé avoir plus de jeux, plus de
Griezmann grandi. Aussi, il avait dit, hein, oui, on est chiant, c'est vrai, mais
voilà, Griezmann a dit ouvertement. Donc forcément, oui, là, on sent le manque de contrôle de Deschamps. Et encore une fois, comme l'a bien dit Jimmy, c'est que voilà, il a un manque de cadre, un manque de soldats dans le sens un peu. Vraiment
comme de confiance en fait, il n'a plus ses relais là, t'as l'impression qu'il n'a plus ses relais dans le groupe.
Et la nouvelle génération qui arrive, donc forcément oui, il faudra un renouvellement pour la Coupe du Monde 26 qui sera un autre décor, on va dire une autre hype, je dirais, parce qu'il faudrait avoir une équipe de France différente et même aujourd'hui.
Et donc tu veux un sélectionneur différent aussi.
Bien sûr, ouais, même par rapport à l'opinion aussi. Ouais.
Arthur, tu voulais réagir également.
Oui, juste pour rajouter un exemple à ceux qui ont été donnés par Jimmy sur la communication, puisque Ricardo en parle à l'instant. Il y a des petites phrases qui sont lâchées subtilement dans des conférences de presse et ça avant il le faisait, mais pas de façon aussi piquante et virulente. Par exemple, je repense à l'après Pologne, une conférence de presse d'après match. À la fin d'une réponse, il dit mais je sais très bien qu'il y a des remplaçants qui ne sont pas contents, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais cette phrase là et c'est celle d'ailleurs qui nous a mis un peu sur la piste, et c'est pour ça que le lendemain on a creusé un peu plus ça avec Fabrice Hawkins. C'est ça qui a mis la puce à tous les journalistes. C'est-à-dire que peut-être que s'il n'avait pas donné cet exemple et dit ah bah oui, il y a des remplaçants qui ne sont pas contents, mais derrière nous, on aurait fini par en entendre parler.
Et surtout,
jamais tous les médias se seraient jetés dessus.
Parce que là vous êtes. Bon, je me permets, mais je trouve que vous êtes incohérent. D'un côté, Jimmy, tu dis qu'il a perdu ses cadres. C'est des joueurs avec un fort statut après la Coupe du Monde 2022. Tu les as cités, notamment Lloris, Varane, Pogba. Bref, tous ces ce type de joueurs-là. Et donc, sa colonne vertébrale a été fragilisée. Je pense qu'il y a très peu de sélections qui perdraient autant de joueurs à fort statut qui pourraient s'en remettre aussi rapidement. Ça, c'est la première des choses. Pour combler
cette perte de joueurs-là, moi, ça me dérange pas qu'il soit un petit peu plus acerbe et qu'il retrouve un rôle de patron un petit peu plus fort en conférence de presse, qu'il pique un petit peu plus ses joueurs. Parce que je préfère, moi, un Didier Deschamps, même si évidemment, ça veut pas dire que ça me rassure. Je sens aussi le danger que ça peut avoir, ce genre de sortie. Il n'y a aucun problème. Mais que moi qu'il accentue un petit peu plus son rôle de capitaine, de chef de cette équipe de France et qu'il dise un petit peu plus les choses, parce que moi ça me saoule à chaque fois que Didier Deschamps il fasse de la com, il passe sur les côtés, il essaye de nous endormir. Ok, ouais. Mais il y a des moments peut-être comme ce tournoi précis où il sent que physiquement ses joueurs sont un petit peu en dessous et qu'il va les titiller mentalement. Et je crois que ses sorties, c'est aussi dans cet objectif-là. Donc en fait Jimmy, je comprends pas ton point de dire que ça sent la fin de règne. Ça peut sentir la fin de règne, mais s'il passe contre la Belgique, ce qui est pas improbable de fou, tu peux lancer quelque chose de fort et va sortir Didier Deschamps au terme de cette compétition. S'il fait un quart de finale contre le Portugal et qu'il passe, etc., tu vois, ça dépend encore beaucoup trop du parcours.
On va prolonger dans un instant. Arthur, je te remercie. Si t'as un mot à ajouter, c'est maintenant. Après, on te laisse retourner dîner peut-être avec les camarades.
Juste on a bien entendu sur la. Ouais, ils sont derrière. Juste terminer sur la colonne vertébrale dont vous parliez, pour terminer aussi sur les remplaçants. Et je ne dis pas que c'est eux qui râlent, mais tu parlais de la Coupe du Monde 2022 où tu avais un peu plus de garantie. Quand tu as donné de la confiance à un Konaté, quand tu as donné de la confiance à un Pavard, quand tu as donné de la confiance à un Fofana, et que aujourd'hui ces joueurs-là qui pensaient avoir cette confiance et se retrouvent sur le banc de touche, eh ben désolé, mais c'est ça aussi qui va te forcer à faire un peu plus de social et qui va te provoquer cette frustration qui est aujourd'hui un peu plus présente.
Et puis aussi la façon d'annoncer aux joueurs qui va démarrer, qui ne démarrera pas.
Mais il y a des méthodes différentes. Fois,
hein. Et la méthode, la méthode d'abord, mais sur qui ça, eux doivent donner les infos aux remplaçants.
La méthode sur ça, et on est les premiers concernés parce que ça nous permet de sortir des informations la veille maintenant. La veille, on arrive quand même, souvenez-vous, face aux Pays-Bas, la compo sort la veille. C'est-à-dire que Didier Deschamps a changé pendant la phase de poule sa méthode. Il a pris les joueurs un par un pendant la phase de poule, la veille de match, très tard le soir, pour leur dire toi tu seras titulaire, toi tu seras titulaire, toi tu ne seras pas titulaire. Forcément que ça sort, forcément que cette méthode, au bout d'un moment, elle va en frustrer plus d'un, parce que ceux qui n'ont pas été pris dans ces rendez-vous-là, ils vont se poser des questions. Bien donc sûr. Là, ce qui s'est passé, ce que personne n'a dit, c'est que pour le match face à la Pologne, terminé le rendez-vous de veille de match, Deschamps a maintenant remis sa séance vidéo de jour de match, son rendez-vous et son point avec ses titulaires un par un, et comme il le faisait pendant la phase élimination directe de la Coupe du Monde. Preuve que là aussi, il s'est rendu compte que sa nouvelle méthode, ça fonctionnait pas.
On prolonge un instant. Arthur, merci. Très bonne soirée à toi. Tu salues nos camarades, tes camarades autour de reporters d'équipe de France RMC Sport. Merci à toi. Dans un instant, Jérôme sera avec nous au 32-16 pour en parler. Beaucoup de messages également sur le direct studio. Hein. Est-ce que vous êtes de mon avis en disant que Kamavinga est meilleur que Tchouaméni? C'est un autre débat qu'on pourra faire d'ici le match face à la Belgique. Restez avec nous. RMC Sport, Génération After. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas
Jamin. Avec Stéphane Zouaoui, avec Ricardo Patti et Jimmy Brown, Génération After, 20h52, on est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez. Tiens, je vais accueillir tout de suite Jérôme au 32-16. Salut Jérôme.
Salut, bonsoir l'équipe, vous allez bien?
Bien et toi? Salut, t'es en forme?
Salut Jérôme.
C'est Jérôme.
Ça va. Pas très confiant pour la suite de la compétition, mais ça va le faire, j'espère.
T'as écouté l'avis de Jimmy qui pense qu'on approche de la fin de règne de Didier Deschamps au regard de sa communication, de son management en équipe de France et aussi peut-être du style et du jeu qu'il propose. Jérôme, t'en penses quoi, toi? Tu penses qu'on approche du bout ou pas?
Ouais, moi je suis complètement de l'avis de Jimmy pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression. Alors après, c'est comme on a l'impression, on n'est pas dans les secrets des vestiaires et tout ça, mais j'ai l'impression que ces cadres le lâchent. Tout simplement, je pense qu'il y a une certaine continuité depuis 2022. Et peut-être que le discours de Deschamps ne passe plus auprès des cadres. Je pense notamment à Griezmann, à Giroud, que sur lesquels Didier Deschamps était ses soldats, tout simplement. Donc je trouve concrètement que les cadres ne sont plus, même au niveau, ne suivent plus le même discours que de Deschamps, tout simplement. Et ensuite, je dirais aussi même que j'ai écouté la conférence de presse tout à l'heure de William Saliba et d'Ayat Upamecano, pardon. Et il y a une journaliste qui lui a posé la question de savoir un peu comment était l'état d'esprit du groupe. Est-ce que c'était toujours la même bande de potes et tout ça? Et en fait, j'ai trouvé que Saliba a un peu esquivé la question. Donc, je me demande s'il y a vraiment un malaise plus profond que ça. Est-ce que Didier Deschamps tout simplement ne serait pas en train de lâcher son groupe, tout simplement?
Et Jérôme, dans la continuité sur Upamecano, on lui pose une question sur le coach. Et quand tu es obligé de dire « Ah, mais je comprends pas pourquoi vous me posez la question, etc. »
Bon, il y a quelque chose de, tu sens qu'il y a une espèce
donc en fait, là, on a passé le début de l'émission, notamment sur France-Belgique, à dire que l'équipe de France, elle avait fait une campagne de poule, dont on n'était pas satisfait. Et vous, vous croyez que les joueurs, ils vont arriver en conférence de presse, être tout contents, ou que dans le groupe, les mecs vont être tout contents? Je veux dire, l'ambiance de groupe, ça ne se décrète pas. C'est les résultats qui amènent une bonne ambiance. Moi, je pense sincèrement que ça peut basculer sur un match. On se formalise de beaucoup de choses par rapport à certaines sorties, etc. Mais moi, je vois ça. Évidemment que ça peut être néfaste, mais ce sont des sorties qui me paraissent pas gênantes, dans le sens où ce sont des sorties qui sont cohérentes. Fofana, ouais, il te parle quand même de frustration par rapport à son entrée, je peux l'entendre. Griezmann, il parle d'aspect physique. Deschamps, il essaye de piquer ses cadres. Donc on est sur une équipe de France qui quand même, dans sa communication, même cherche des solutions. Je serais beaucoup plus inquiet si c'était le cas inverse.
Oui, c'est vrai que c'est bien un groupe 5 qui...
Vas-y, Jérôme.
Moi, je trouve qu'en fait, est-ce que l'état d'esprit du groupe aussi amène pas les victoires, ou amène pas les défaites? Parce qu'on prend l'exemple, par exemple, de 2022, l'équipe, concrètement, elle était vraiment solidaire. Je voyais, chacun se battre pour les autres. Là, j'ai pas l'impression sur le terrain que chacun se bat sur les autres.
Je suis de ton avis, Jérôme.
C'est qui de l'œuf ou la poule, en réalité? Est-ce que c'est un état d'esprit, une ambiance qui fait des mauvais résultats, ou est-ce que c'est l'inverse?
Avant de laisser Ricardo, 2022, sur le premier match, à l'issue du premier match, il y a une causerie qui était sortie d'Didier Deschamps, où il y a les joueurs qui regardent Deschamps et qui lui disent, on comprend rien ce que tu nous demandes sur le terrain. Donc, en fait, les gars, un groupe, ça vit. C'est-à-dire que la frustration sort des défaites ou des résultats.
En interne, pas dans la presse, mais d'accord, en conférence de presse, etc., à laisser filtrer dans les médias. Ce qui se passe qu'il y ait des discussions dans le vestiaire tactique, etc., c'est sain. Il faut pas qu'il y ait des robots dans le vestiaire, on disait toujours, on mettait toujours en avant sur Deschamps le fait qu'il sait parler aux jeunes, tu vois, il a su s'adapter à cette nouvelle génération, etc. C'est ce qu'on mettait en avant en 2018. J'ai l'impression que cette génération là il a peut-être un peu plus de mal avec elle.
Ricardo, tu voulais dire?
Non, moi, c'est juste pour corroborer les propos de Jérôme, hein, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est l'état d'esprit qui amène aussi potentiellement des victoires ou des résultats, des performances. Là, on a l'impression que dès le début de la compétition, il y a eu des choses un peu des malentendus. Donc forcément, ça amène un peu de frustration chez certains. Quand on entend jusqu'à Zaïre Emery, après, je sais pas si c'est vrai ou pas, je suis pas dans les secrets des vestiaires, secrets des dieux, mais ça, enfin, entendre que même Zaïre Emery, à son âge, se plaint de l'implication qu'il peut avoir ou pas, ou son manque de temps de jeu, ça apporte vraiment.
Après, c'est son problème à lui.
Il y a beaucoup de messages également, les gars.
Problème à l'effectif, Sofiane.
Dans le chat de la chaîne YouTube de l'After, concernant Kylian Mbappé, tiens, t'as Kissima du 95 qui dit Mbappé capitaine, quel est son rôle pour que la communication soit au top au sein du groupe? Il a demandé des responsabilités. Il doit agir en conséquence. Bon, Mbappé, il a eu, vous l'avez vu, un début d'Euro perturbé par sa blessure, sa fracture du nez. Pour l'instant, il a zappé quelques conférences de presse d'avant-match. Lui aussi, il doit avoir un rôle, effectivement. C'est une enquête qu'on devrait mener aussi avec nos reporters équipe de France. Oui. Est-ce que lui met aussi de l'huile dans les rouages de cette équipe de France aussi? Est-ce qu'il remplit ce rôle-là d'un Lloris qui était placide, qui parlait à tout le monde? Est-ce que Mbappé le fait aussi?
Au-delà du groupe, etc., je trouve beaucoup plus intéressant ce type de débat qui est de réfléchir aux orientations de cette équipe par rapport à la force physique, technique, mentale des joueurs, des cadres notamment. Est-ce que c'est bien de penser équipe de France autour de Kylian Mbappé dans la période où Kylian Mbappé est? D'autant plus que, bon, sur la phase de groupe, moi, je n'ai pas trouvé si immonde que ça. Mais là, la question m'intéresse un petit peu plus. Est-ce que c'est bien de penser équipe de France et de structurer le milieu de terrain, de mettre parfois Griezmann proche des attaquants, parfois le descendre en 8, de chercher une solution par rapport à lui, alors que Griezmann, sur la deuxième partie de saison avec l'Atlético de Madrid, il est en grande difficulté? Donc ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup plus, mais c'est des questions de tâtonnement tactique. Moi, là où Deschamps,
ça joue,
bien sûr,
les joueurs jouent en sélectionnant là-dessus.
Sur
également.
L'état d'esprit,
l'équipe disait ce matin, certains joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut faire à l'entraînement.
Nico, exactement. Mais le sens, il est inverse pour moi. C'est les tâtonnements tactiques et la réflexion tactique de Didier Deschamps qui amène une incompréhension et peut-être une incompréhension et un mal-être dans le groupe, mais pas l'inverse. Je veux dire, l'état d'esprit du groupe, il ne se décrète pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire qu'il faut que ce soit le Club Med ou.
Pas du tout, c'est pas ça. Je t'ai dit que tactiquement, il y avait déjà un souci sur la manière dont t'as formé ton équipe autour de Kylian Mbappé, alors qu'on voit la saison de la
sur cet aspect on peut s'entendre, mais que ça évidemment déborde un petit peu et que les mecs s'expriment, moi je trouve ça plutôt cohérent. Mais voilà, moi le point de départ est beaucoup plus tactique.
Voilà, Jérôme, merci.
Je peux juste te poser une question, une dernière question.
Tu disais qu'il n'y aura pas de réponse, qu'on doit faire une pause.
Oui, ok, pas de souci. Non, c'était juste pour vous poser la question. Un peu, selon vous, est-ce que le manque d'efficacité offensive vient pas aussi du fait qu'il y a un manque de lien entre le milieu de terrain et l'attaque?
Oui, bien sûr. Oui, mais pas que.
Pas que.
Tu regardes le nombre de, tu regardes les stats, pardon, des offensives sur la saison. Regarde bien les stats, s'il te plaît. Dis-moi quels joueurs ont marqué plus de 5 buts, hormis Mbappé. On en parlera après.
Voilà Jérôme, tu as une partie de la réponse. Merci Jérôme, tu reviens quand tu veux sur RMC et dans Génération After. Très bonne soirée, attends dans un instant. Est-ce que vous aimez cet euro pour l'instant? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous vibrez? Quelle émotion vous gardez? Est-ce que vous retenez plus la Géorgie ou la Roumanie en huitième de finale que le déficit technique de ce début d'euro? Vous nous appelez au 32-16, on revient dans quelques secondes sur RMC, à tout de suite.
Génération After.
RMC. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Sofiane Zouaoui, Jimmy Brown et Eric Radopati, on est ensemble jusqu'à 22h, 21h45. Hein, le rendez-vous, le quiz de l'After. Jérôme Thomas sera à mes côtés pour l'ultime quiz de la saison.
Je pense qu'à ça, moi.
Ce sera à 21h45.
Mais Walid sera là ou pas?
Walid sera bien là, bien sûr. Il sera, même avec ton coéquipier. Inscrivez-vous, hein, le quiz 732-16. Quiz 732-16 pour gagner un bon beurre shot. Et puis dans 20 minutes environ, grosse page mercato à venir, hein, Supporter Marseille, Supporter Lyonnais, on vous attend aussi. D'abord, l'Euro, premier tour, la phase de groupe est terminée, les huitièmes de finale commencent après-demain. Qu'avez-vous pensé de cet Euro pour l'instant, de cette première phase en tout cas? Est-ce que vous retenez le niveau plutôt faible? Ça c'est moi qui l'engage, ce sentiment. Ou les belles histoires roumaines, géorgiennes, surtout, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Tiens, toi, Ricky, pendant la pub, tu me disais, moi j'aime bien cet euro pour l'instant.
T'es sévère. Hein.
Pourquoi?
Enfin, là,
moi je m'ennuie un peu.
Les
quand
gens
même, hein.
sont quand même sévères sur le niveau de l'euro. Moi je trouvais que c'était un euro de plutôt bonne facture. Alors certes...
À quel niveau? Technique?
Au niveau du jeu, au niveau de l'intensité, l'implication, il y a eu des buts. Il n'y avait pas beaucoup de 0-0, hein, hormis lors de la troisième journée.
En fait,
forcément.
Je pense que c'est ça, on reste sur l'impression de la troisième journée où tout le monde a fait ses calculs.
Ce fait de la troisième meilleure
quel match t'as aimé, par exemple? Dites-moi 4-5 bons matchs.
Géorgie.
Oui, mais ça, on est tous d'accord là-dessus.
Ouais.
Bon, tout le monde sort que celui-là.
Espagne, Italie, bon match. Les matchs de l'Espagne, c'était bien quand même.
Moi, j'ai bien aimé les matchs des Portugais. Les matchs des Portugais contre même la République tchèque, d'ailleurs, qui s'est éliminé.
Moi, j'ai bien aimé.
L'Allemagne-Écosse
d'ouverture, très sympa aussi.
Après, oui, il y a des grosses purges, je pense, au match de l'Écosse. Contre le dernier match de l'Écosse, c'était contre qui encore?
Contre la Hongrie.
Hongrie, ouais.
Oui, ça c'était un mauvais match. Oui.
En plus, il y a eu le choc du pauvre Varga, tout ça. Mais non, mais hormis ça, non, il y a eu des matchs intéressants. Moi, je pense qu'il y a eu de l'entraînement.
Moi, je pense que ma déception vient du fait que moi, j'aime bien quand les gros sont là dès le début, en fait. Tu vois?
Non, mais en fait, il faut.
Là, on a vu le Portugal médiocre. On a vu une équipe de France.
C'est pas les pires en Portugal.
On a vu un Pays-Bas
médiocre. On a vu une dernière journée où ils avaient beaucoup tourné, où ils n'ont pas été bons. Mais les deux premiers matchs du Portugal,
je suis désolé.
Une Italie en plein déclin aussi. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la hiérarchie n'existe plus réellement. Alors, on peut dire, c'est magnifique, c'est permis à des sélections moindres comme la Slovénie, la Roumanie ou la Géorgie d'exister. Mais moi, je suis un peu déçu de ce rendez-vous-là. C'est une grande explication, l'euro, tous les 4 ans.
Après, tu élimines que 8 équipes,
tout le monde dit que c'est plus dense, c'est plus dur un euro qu'une Coupe du Monde.
Moi, j'ai l'impression, un peu comme là.
Tu fais toute cette phase de groupe pour éliminer que 8 équipes.
Donc, ça n'empêche pas.
Non, mais tous les favoris sont là. Tu dis, on voit plus les favoris. Mais quel gros est.
Non, je parle du contenu également.
Moi, je pense que les coachs et les équipes, les joueurs, ils sont plus calculateurs. C'est pour cela. Et c'est même un peu l'image de l'équipe de France. J'ai l'impression qu'ils sont un peu. Est-ce qu'il faut gagner? Il faut jouer le nul. Donc, forcément, ça amène des matchs un peu insipides, surtout sur la fin, encore une fois. Mais je pense qu'il y a eu quand même des matchs de bonne facture. Et j'espère que dès les 8e, il y aura des matchs intéressants. Il y a la Turquie qui joue un match intéressant. Il y a forcément c'est France-Belgique qu'on va suivre. Il y a l'Italie qui arrive aussi. Donc, non, forcément, je pense qu'il y aura des matchs intéressants. Mais moi, je reste globalement satisfait par la compétition.
Sofiane, non, vous nous appelez au 32-16 hein, pour nous dire ce que vous pensez de l'euro pour l'instant.
Non, moi je suis pas d'accord.
Avec qui?
Avec Ricardo. J'ai une exigence, mais je respecte son avis. J'ai une exigence moi sur les sélections qui est moindre. de base. Et pourtant, j'ai quand même été déçu. Moi, j'ai un énorme problème au-delà du spectacle. Je comprends, moi, je suis prêt à pardonner la dernière journée, même si j'avais envie de vomir sur l'enchaînement des 0-0, là, avec notamment l'Angleterre. Mais allez, je leur pardonne le calcul. Je le disais tout à l'heure avec la Belgique. Je peux entendre que des joueurs aient cette approche-là quand il y a les meilleurs troisièmes et quand sur un but, tu peux passer, comme la Belgique, de qualifier à éliminer. Mais moi, c'est sur le niveau technique. Je trouve ça désastreux, mais vraiment désastreux. Et même sur les premiers matchs, j'ai la France en tête, mais j'ai aussi l'Angleterre, des joueurs normalement d'un niveau technique supérieur comme Bellingham, comme je peux te citer Kane, je peux te citer du côté de la France.
Dans les déchets, mais, les passes qui n'arrivent
mais
pas.
Mais déchets techniques, c'est une catastrophe.
Ça, je le concède.
Alors, ah bah ouais, tu sais, je pense, en fait, j'ai un avis par rapport à ça, c'est que les joueurs de foot, d'un côté, j'ai envie de leur pardonner, de leur excuser, puis d'un autre, non. Je pense que ce sont des joueurs qui sont kidnappés par leur époque sur deux aspects. L'enchaînement des matchs, ça, je suis obligé d'aller dans leur sens. Ils sont carbonisés. Ah, Bellingham est mort. Hein, Griezmann, il est mort. Ouais. Je veux dire, techniquement, je suis obligé d'aller dans leur sens. Donc, ils sont kidnappés par leur époque sur ce point de vue-là. Mais ils sont aussi kidnappés par leur époque dans le sens où je maintiens ce que je pense et ce dont j'ai déjà parlé, pour moi, ce sont des froussards. C'est-à-dire que quand ils sont sortis de leur contexte collectif de club, tu te rends compte qu'en fait, individuellement, intrinsèquement, ce sont des joueurs qui ne savent plus réfléchir par eux-mêmes ou tenter des choses. Tu as des exemples, des contre-exemples. Hein. Doku est un joueur qui tente beaucoup. Conceição, du côté du Portugal, j'ai bien aimé aussi. Mais au sortir de leur confort collectif, hein, de toute la data, de tout ce qu'on leur dit de faire. Moi, je trouve que ça transpire ce côté négatif. Il y a très peu de centre en première intention. Parce qu'en data, faut leur dire de trouver la bonne passe. Sinon, si tu trouves pas la bonne passe, en fait, t'as perdu ton temps. Il y a quelques frappes. Des corners joués
à deux.
C'est une catastrophe. Sur les frappes de loin, il y en a eu quelques-unes, mais globalement, les joueurs ne tentent plus de loin. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils transpirent.
Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de nostalgie. On idéalise toujours le passé. Est-ce que t'as des souvenirs de phase de poule, de grandes compétitions récemment, ou même sur les 20 dernières années qui ont été exceptionnelles.
Je veux vraiment pas rentrer dans ce délire du vieux de la vieille, parce que quand on parle de la saison et du contenu des saisons, on est toujours là à valoriser ce que font les coachs, ce que fait Guardiola. On a parlé de De Zerbi, etc. Donc moi j'adore ça sur la saison.
Tu peux pas mettre en place quand t'es en sélection. Tu le sais très bien.
Je sais, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on aime pendant la saison et ce côté data, ce côté précision des coachs tactiques, qu'on aime beaucoup nous le valoriser. Je te dis juste qu'il y a un effet qui se coule. Et l'effet qui se coule, il se voit dans les sélections. Les joueurs ne savent plus réfléchir, ne savent plus interpréter le jeu par eux-mêmes. Ils sont bloqués dans la matrice tactique. Et ça me dérange sur les sélections. Voilà. On peut voir le côté positif et le côté négatif.
Pour cela aussi, il faut analyser, il faut voir cette compétition d'un œil différent. Là, on n'est pas en train d'assister à une Ligue des Champions ou à des matchs de championnat. C'est une compétition, voilà, sur le court terme. C'est une compétition de nations. Il y a des qualifs en jeu. Il y a des joueurs qui arrivent de tout horizon footballistique avec des mentalités totalement différentes. Et là, le problème.
Quand même, t'as pas cité Kvara. Franchement, les matchs qu'il fait, Mikotadze,
Georgie, il y en a quelques-uns.
Pour prendre l'exemple, on aura Willy tout à l'heure.
Non, mais il a raison, il y en a quelques-uns. Mais les joueurs qu'on attend aujourd'hui, qui doivent dominer cet euro, pour leur sélection, leur sélection, on les voit pas.
La Georgie, c'est un très bon exemple. C'est une équipe fraîche. C'est une équipe qui n'a pas eu le temps
Il a joué 6 mois quasiment cette saison.
De se faire manger par le calcul, tu vois.
La Turquie aussi.
Tu vois, c'est ça qui est intéressant.
Moi, la jeunesse turque, je les retiens aussi. Tu vois, Arda Güler.
Il a quasiment pas joué cette saison.
C'est la fraîche.
Oui. Mais c'est pour ça que je vous dis que si vous regardez dans le rétro et que vous voyez les derniers euros, les dernières coupes du monde sur les phases de poule, rappelle-toi au Qatar, on n'a pas été transcendé par énormément de matchs.
Changeons le prisme.
Le meilleur buteur du dernier euro, c'est qui? C'est Patrick Schick. Mais vous dites les buteurs sont absents, etc. Il finit avec 4 buts, je crois.
5 buts avec Ronaldo.
Voilà, et tu l'auras là, le meilleur buteur. Il sera à peu près dans ces eaux-là.
Je dis juste que je trouve que le football de sélection, qui est un football que je respecte, parce que pour moi c'est un football de fraîcheur et d'événements.
C'est un football d'émotion en fait, plus qu'un football technique. Tu peux pas attendre des sélections de.
Bien
ce
sûr.
Que tu
moi,
vois
je t'ai dit,
en fait.
J'ai une exigence très basse, mais je te dis simplement qu'il met en avant le côté pervers du tout data et du tout tactique que je valorise le reste de la saison. C'est mon côté contradictoire, tu vois.
Et qui nuit à la spontanéité, à la liberté d'entreprendre des joueurs.
On a mort vivant. Ce que je veux juste vous défendre, c'est que c'est pas un phénomène forcément nouveau lié à cet euro-là.
Mais que le foot de sélection.
Alors beaucoup nous disent également, c'est lié au format également à 24, avec les 4 meilleurs, la 3e qualifiée, les calculs qui vont sur la 3e journée. Bon, on en parlait tout à l'heure avec Jimmy, on prépare l'émission. On a suivi la Coupe d'Afrique des Nations. On a eu des phases de poule hyper excitantes avec des troisième journées passionnantes aussi, tu vois.
Parce qu'il y a un côté fraîcheur, il y a un côté différent. Tu vois,
je profite de l'occasion, ça permet aussi de réhabiliter la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la Coupe d'Afrique des Nations en disant le niveau est nul,
et si c'est des Africains qui enchaînent les 0-0 de l'Angleterre.
Si on avait mis ça en troisième journée, là.
C'est pas ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire récemment. Tiens, j'accueille Lucas au 32-16. Salut Lucas. Bonsoir, bienvenue dans Génération After. Heureux de t'accueillir.
Salut Lucas.
Salut.
Alors bonjour Lucas,
salut Lucas.
Toi, comment tu vis ton début d'Euro ? Est-ce que tu prends du plaisir ?
Ben pas vraiment, pas vraiment. Je trouve que le niveau de jeu est pas ouf. Je suis souvent d'accord avec Sofiane. Par contre, je trouve que il y a eu pour le coup pas mal de buts de l'extérieur de la surface.
C'est vrai. Mais peu de tentatives, c'est paradoxal.
C'est un record.
Ouais, ouais. Paradoxalement, peu de tentatives, mais t'as raison, il y a eu des buts. Le but du Danemark, voilà.
Il y a beaucoup de CSC aussi, ouais. Je crois qu'on a 7.
Ben Ruiz, j'ai pensé avant de le dire, je sais, mais il y a peu de tentatives au final.
Vas-y, Lucas.
Mais je comprends ce que tu veux dire, Sofiane. Il y a manque de créativité, oui, ouais. Un manque de
spontanéité. Vas-y, Lucas.
Exactement. Donc, paradoxalement, effectivement, je suis pas d'accord avec Sofiane sur le fait que. Il n'y a pas eu de but à l'extérieur de la surface. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que le niveau technique, et je le trouve faible, et que moi je m'inquiète en fait du niveau technique du football, et que je pense que le football va perdre des parts de marché par rapport à d'autres sports parce que ça devient chiant en fait. On s'ennuie devant les matchs qui sont proposés. Je trouve que les grosses équipes, elles sont pas au rendez-vous. On dit que l'Espagne est l'équipe qui propose le meilleur jeu. C'est pas très divertissant non plus.
T'es sévère. L'Espagne a répondu présent même. L'Espagne, les deux premiers matchs de l'Espagne, moi franchement, je me suis éclaté sur l'Espagne-Italie et ça finit que 1-0. Il y a 3-4-0 sur le match. Et ils envoient de partout. Nico Williams, Lamine Yamal, le milieu, machin. Techniquement, si t'as une équipe qui joue, c'est quand même l'Espagne.
C'est ça le problème. C'est en fait, qu'est-ce qu'on veut en fait de ces équipes-là ? C'est on veut qu'ils donnent tout dès les premiers matchs, qui sont vraiment en train d'exploser leur.
Non, Sofiane parle de justesse technique simplement. Il parle pas forcément d'intensité.
L'Espagne, c'était plutôt cohérent.
Oui, l'Espagne, oui.
Mais après, il faut laisser aussi les équipes. Comme l'a dit Sofiane, malheureusement, le mal qu'on a, c'est que les équipes maintenant sont très, très calculatrices. Donc forcément, ils seront pas toujours très bons, mais ils se construisent. On a l'image de la France. Mais maintenant, espérons que dès les
finales,
voire les quarts, on verra des matchs de
meilleure facture. Et donner la liberté à vos joueurs aussi. Tu vois, Arda Güler, il est bien créé. C'est un des rares. C'est un gamin aussi qui est en train de se façonner.
Quand on voit les chiens, quand on voit les jeunes Barich, quand on voit
Arda Güler. Il y a trop de chemin préétabli.
Moussiala me fait plaisir.
Dans un football,
c'est peu, finalement.
Ça reste une exception.
Lucas, après, rares sont les euros où tu avais 45 joueurs qui sortaient du lot non plus.
Attends, je demande pas 10 000 Moussiala. Je te dis juste que moi, ça me saoule les pas sur le côté et on attend avant de centrer. Centre en première intention, même si t'as pas vu le joueur centre.
C'est une tendance. Faire un ticket Zouaoui, Jamin,
mais
sélection, Jimmy, et essayer de renouveler
nous, c'est une tendance 4 lourde 4 aussi, quoi. 9 coups de pied arrêtés, 9 corners sur 10, on joue à 2 désormais,
c'est
quoi.
Ils
applaudissent à rien en général. Bon, bref, Lucas, tu veux ajouter quelque chose ?
Ouais, je voudrais ajouter que, effectivement, moi, je suis un peu triste, c'est que ça joue plus que sur les côtés. Et qu'il y a plus, il y a plus de jeu dans ce qu'on appelle le cœur du jeu, quoi. Pour moi, le numéro 10, c'est le plus beau poste du foot, et que en fait, on voit plus ce type de joueur, quoi.
Ouais, après on rentre dans notre débat, Lucas. Forcément, parce que maintenant, on sait qu'à quel point.
Dans le débat, je crois.
Le côté tactique est vraiment important sur toutes les équipes. Maintenant, même les petites équipes arrivent avec des coachs, on va dire, formés entre guillemets. Pour contrer ce fameux numéro 10, donc forcément, on cherche d'autres alternatives, juste sur les côtés.
Ouais, d'ailleurs, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai aussi que tout ce qu'on valorise positivement pendant la saison, moi, en compète internationale, ça me saoule. Je dis beaucoup, ça me saoule, mais c'est vrai, comme l'uniformité tactique.
Ouais, c'est ça.
Hormis la Géorgie, qui est une spécificité, d'ailleurs, qui nous a fait kiffer un peu sur la phase de poule par rapport aux autres. toutes les équipes ont les mêmes principes. Ouais. Fermer à l'intérieur, écarter sur les côtés. Ouais. Tu vois, c'est... après, voilà, c'est la vie, c'est l'Europe, c'est comme ça, faut s'y faire.
C'est l'Europe, on y va. Mais... c'est l'Union Européenne, Sofiane, exactement.
Non, mais c'est le football européen, quoi, mais voilà, ça.
Bon, d'ailleurs, je précise, hein, pour connaître, en connaître plus sur le travail de Willy Sagnol, il sera l'invité de l'After, hein, à partir de 22h, le sélectionneur de la Géorgie. C'est vrai qu'il donne beaucoup de liberté à ses joueurs dans un cadre défini, certes, hein, mais tout de même. Lucas, merci d'être venu dans Génération After.
Ben, merci beaucoup. Un dernier mot sur le numéro 10. Je pense que justement le poste de numéro 10, il a pour vocation de trouver des solutions tactiques à des problèmes face à une équipe qui est justement regroupée en bloc bas, etc. Et que c'est un peu dommage qu'on ait oublié que le poste de numéro 10 est quasi à un moment donné débloquer des solutions.
C'est vrai, mais on en forme de moins en moins les numéros 10.
On pourra en faire un débat, ça prendra trop de temps.
Là, il faut 2 heures de génération.
En fait, les numéros 10 existent toujours, sauf qu'ils sont un peu différents.
C'est ça, ils sont exploités différemment.
Ils sont des 8. Même Trent peut être considéré, pas de poste, mais peut être considéré comme un 10 dans le fait de produire quand il était à sa meilleure période à Liverpool.
Bien sûr, il y a un décalage.
Lucas, merci. Tu reviens quand tu veux, n'hésite pas.
Merci beaucoup.
Très bonne analyse. À très vite. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Dans un instant, grosse page Mercato à venir dans Génération After. Julien Laurence sort de son euro pour nous parler Mercato aussi, car plusieurs joueurs de Première Ligue vont certainement débarquer chez nous en Ligue 1. À tout de suite sur RMC.
Téléchargez l'appli RMC. Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, 21h21 avec Jimmy Brown, Sofiane Zouaoui et Ricardo Fati. En plein euro, il y a du mercato. Jingle mercato. Il n'est pas préparé, malheureusement, donc on y va tout de suite. J'accueille Julien Laurent. Bonsoir, Julien. Julien qui est... Oh là là, mais donc, quel enchaînement magnifique. Les amis, il va venir avec nous dans Génération After parce que on va parler de joueurs de Première Ligue qui vont certainement débarquer en Ligue 1, à Marseille et à Lyon notamment. Tiens, Marseille d'abord. Selon nos infos, l'OM s'est rapproché aujourd'hui d'un accord avec Watford pour le transfert d'Ismaël Koné pour environ 12 millions d'euros. Ismaël Koné, je précise, un milieu de terrain axial, international canadien, titulaire avec le Canada, titulaire avec Watford en Championship. Hein, il a fait 15e cette saison de Championship, division 2 anglaise. Priorité de Roberto De Zerbi, et je veux ce joueur absolument. Ouais. Il a beaucoup joué cette saison. Qu'est-ce que t'en penses?
Il a raison.
Tu l'as vu à Watford régulièrement?
Non, pas à Watford, mais c'est un joueur que j'avais connu au Canada.
Un Ivoirien,
mais qui a grandi au Canada.
À 6 ans, il a quitté Abidjan pour le Canada.
Exactement, parce que j'ai un ami qui joue à Toronto, qui joue encore en MLS, Quentin Westberg, Gajan But, big up à lui.
Ah oui, bien sûr.
Et il m'en a parlé, et j'ai un peu suivi son évolution à Isma Koné, et je peux vous dire, c'est du niveau, enfin, on va dire, toute proportion gardée, c'est de Yaya Touré dans le texte, hein, dans le jeu. C'est vraiment intéressant.
La pression que tu lui mets là?
Non, franchement, non, c'est pas une pression, parce qu'il a aussi délivré, hein, il a fait ce qu'il avait à faire en Championship. Moi, je le voyais un destin et un futur en Première Ligue, hein, clairement. Et le fait que ce genre de joueur arrive en France, en plus à l'OM, franchement, je suis totalement hypé par sa venue.
Il est en train de faire la Copa América avec le Canada.
Très très bon. Moi, j'invite les supporters à voir un peu ces images, ces vidéos. C'est un joueur que j'avais connu il y a 2-3 ans.
Je pense que
pas mal du tout.
Bon, évidemment, vaut mieux se renseigner, mais je pense que De Zerbi sur les milieux de terrain, tu peux lui faire confiance.
Oui, voilà, aussi.
La façon de s'orienter, de sortir du pressing, se projeter aussi. Donc, si c'est De Zerbi, je signe. Et j'ai hâte de voir ça. Après, mais je le connais peu pour être totalement sincère.
Après moi aussi, j'ai pas suivi tous ces matchs, mais c'était.
Ça interroge sur les mouvements aussi à venir au milieu de terrain à Marseille. Ça veut dire qui est-ce que tu vas garder? Il y a Rongier, il y a Veretout, il y a Kondogbia. Parmi ces trois joueurs, ça sous-entend qu'il y en a au moins qui va quitter le club. Peut-être
Veretout. Très grave.
Bon, selon. Oui, non, t'as raison.
Veretout n'a pas démérité cette saison. Rongier n'a pas le jugé, il était blessé, mais avant cette blessure, Rongier était plutôt bon. Kondogbia, c'est vrai, j'ai un peu plus de réserve.
Il peut y avoir une vis sans Veretout aussi, il a fait quelques matchs.
que l'OM aille sur ce genre de profil à développer, que ce soit en valeur marchande ou en termes de niveau, avec un coach qui sait ce qu'il fait, ça me va très bien, je préfère ça.
Un jeune joueur de 22 ans, même pas tout à fait.
Ouais.
Tiens, Julien arrivera dans quelques minutes à nos côtés pour nous éclairer notamment sur Mason Greenwood. Hein. Greenwood, pardon, c'est une information The Athletic que nous confirmons à RMC Sport. Attaquant de Manchester United prêté à Retafe cette saison, 10 buts, 6 passes en Liga. Il y a des échanges entre la direction de l'OM et l'homme à une sélection en équipe d'Angleterre qui s'est, je le rappelle, exilé en Espagne après des gros déboires extrasportifs, notamment accusé de tentative de viol, d'agression sexuelle sur son ex-compagne. Les charges ont été abandonnées il y a un an et demi à peu près. Voilà pourquoi aussi il est parti en Espagne. United n'en veut plus, absolument plus, ce joueur-là. Il lui reste un an de contrat. Donc c'est une opportunité à faire pour Marseille. Après, on en fera un débat si jamais il arrive sur l'éthique de faire.
Moi, ça me dérange totalement.
Mais... Voilà, c'est ça, sur l'éthique qui accompagne ce genre de transfert. On en est pas le beau matin, rappelle-toi à Lyon aussi.
Bien sûr, mais ça rentre totalement dans cette idée-là. Avec Mason Greenwood, il y a évidemment, tu dis les charges ont été abandonnées, mais il y a des images où sa femme.
Faut de témoins clés et d'éléments.
Je sais pas ce qu'il est en train avec elle. Je crois qu'il s'était remis avec elle, mais sans rentrer dans les détails. Mais il y a des images très choquantes de sa femme, de ce qui est de
des
ce qu'elle a
subi. Posté, ouais.
Voilà, je sais qu'ici on est là pour parler de foot et j'ai pas de leçon particulière à donner à personne, mais sur ces questions de violence conjugale, je pense qu'il faut être très ferme et que moi, un club de la responsabilité de l'Olympique de Marseille, doit pas signer ce type de joueur. Et j'aurais la même réflexion avec n'importe quel club. Donc voilà, pour moi, le débat de son niveau et du type de joueur, j'en ai rien à faire.
Du coup, il
se débrouille, il fait ce qu'il veut avec sa carrière, mais je veux pas d'un joueur comme ça dans un club français ou dans aucun club d'ailleurs. Mais puisqu'on parle de l'OM, voilà.
Tiens, je vais accueillir Louis au 32-16, supporter de l'OM, qui vit à Montréal justement et qui veut nous parler d'Ismaël Koné. Bonsoir Louis.
Salut les gars, comment ça va?
Bien. Salut. Et toi? Bienvenue. Bonsoir, dans Louis. Génération. Salut, After, Louis. On est heureux de t'accueillir également. Bon, est-ce que tu es d'accord avec Ricardo qui dit que c'est une très bonne idée que Marseille a, que d'attirer Ismaël Koné?
Alors en tant que Marseillais et Montréalais d'adoption, forcément très heureux. Pour le joueur, c'est vraiment le plus gros crack à Montréal de ces dernières années. Et je pense qu'il peut clairement s'épanouir à l'OM, surtout avec De Zerbi. Parce que comme ça, annoncé en Ligue 1, je l'aurais plus vu à Rennes ou Lens. Mais à Marseille avec De Zerbi, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Le seul doute que j'aurais, c'est sur sa personnalité, son état d'esprit. Après, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, voilà, qui est très gentil, très calme, peut-être trop calme pour Marseille. C'est là où faut voir, parce que Montréal et Watford sont des environnements assez calme en termes de pression. Il faut voir comment à Marseille ça va faire pour lui, parce que j'ai peur que s'il se rate à Marseille, sa carrière après, ça va être compliqué de rebondir, quoi.
Pourtant, quand je le vois sur le terrain, il a l'air d'être entreprenant, il a l'air d'avoir du caractère, de la personnalité. Toi, tu penses qu'il est un canton réservé? Tu penses que l'environnement marseillais pourrait le bouffer?
C'est là où j'ai un gros doute. Après, c'est sûr qu'il a beaucoup progressé. Il vient d'une famille ivoirienne qui a émigré à Montréal. Il est devenu pro sur le tard. Il a encore beaucoup à apprendre, même s'il a quoi, une centaine de matchs en professionnel. Mais il est passé par Montréal. Il a été développé par Wilfried Nancy, l'ancien entraîneur de l'Impact et aujourd'hui
à Columbus.
Entraîneur français de Columbus, champion MLS. Donc, il a, je pense qu'il faut. Après, c'est voir comment, avec De Zerbi, ça va se passer. Il a un profil 8, box-to-box, gros volume. Donc, pour la Ligue 1, ça peut marcher. Après, c'est son aisance technique et la personnalité. Ça va voir parce que Longoria a reproché l'année dernière aux joueurs de ne pas avoir assez de caractère. En gros, il aurait voulu 11 Balerdi sur le terrain, mais il les a pas eu. Est-ce que Koné va pouvoir apporter ça? Après, il est très calme. Peut-être ça va pouvoir se compléter avec les mecs qui ont un peu plus de grinta. C'est ça que j'attends de voir. Mais très heureux pour lui, en tout cas, et pour l'OM.
Bon, voilà, merci de ton éclairage, Louis. Hein, il est important. Tout à l'heure, on aura également Julien Laurence qui nous parlera de lui et d'une recrue marseillaise, hein, Moussa Niakate. Merci, Louis. Très bonne soirée à toi.
Lyonnaise.
Merci beaucoup. À bientôt.
Salut Louis. À très vite sur RMC. Dans un instant, Julien sera avec nous. Pas mal d'infos encore marseillaises à vous donner concernant notamment Paul Lopez, Balerdi aussi, les infos Florent Germain, les infos lyonnaises, bordelaises aussi, tiens, puisque passage devant la DNCG de Bordeaux, de la Sage-Axio notamment, le Havre aussi, avec une info à vous donner dans un instant. Reste avec nous, Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After, Nicolas Jamain.
Génération After avec Sofiane Zouaoui, avec Ricardo Fati et Jimmy Brown. Promis, Julien Laurent, ça arrive dans quelques secondes. Vous savez, il bosse pour 25 médias étrangers, autres qu'RMC. Il est exclusif avec nous en France. Mais il bosse pour la radio australienne, radio indonésienne aussi, c'est vrai, c'est pas des bêtises. Anglaise, partout. Cet homme-là.
Sans compter les télés, sans compter les podcasts.
Il vend ses compétences à tout le paysage audiovisuel international.
Voilà. La chance d'en avoir un petit boost, déjà pas mal.
Déjà bien, on profite un peu. Si on a 5%, c'est déjà bien de Julien Laurence. Bon, tiens, autre info, Flo Germain, concernant Marseille. L'OM ne retiendra pas Paulo Lopez si offre intéressante, ce que nous dit Flo aujourd'hui, si offre intéressante pour le gardien espagnol. Côme, promu en Serie A, le Côme de Cesc Fabregas, est intéressé. Alors, plusieurs pistes, hein, je vois que tout le monde s'excite un peu sur les réseaux, notamment sur le chat YouTube. Beaucoup évoquent la piste Brice Samba de Lens. Nous, on va rester très prudent pour l'instant, on n'a pas ces infos-là. Il y a aussi la piste Ilan Meslier, hein, de Leeds, hein, qui monte en Première Ligue après avoir pris la première place de Championship, pour pallier donc un éventuel départ de Paulo Lopez. Votre avis là-dessus, les gars?
Leeds, il monte. C'est Leicester qui a pris la première
place. Ah non, c'est Leicester, premier
oui, Leicester.
Moi, si tu me demandes entre.
S'il faut remplacer Paulo Lopez, il faut qui?
Alors, moi, je préfère Samba. Dans l'idée, gardien qui connaît la Ligue 1, valeur sûre, je pense qu'il donne plus de garanties que Paulo Lopez. Après, je trouve qu'il y a globalement une sévérité par rapport à Paulo Lopez, et que si tu mets Paulo Lopez et Ilan Meslier à côté, moi je suis pas sûr. Je demande à voir. Voilà, donc si j'ai le choix entre les trois, je prends Samba. Si j'ai le choix entre Paulo Lopez et Ilan Meslier, parce que Ilan Meslier, c'est un joueur évidemment qui t'apporte quelque chose au pied, mais c'est un joueur aussi qui peut faire arracher les cheveux des supporters de l'Olympique de Marseille.
En sachant qu'ils sont déjà un peu arrachés suite à la saison de Paulo Lopez. Voilà. Saison donc, de Paulo Lopez. Donc
en fait, moi, il faut que je sois à peu près pas sûr.
Il n'est
parce
pas
que
catastrophique non plus.
Non,
il n'est pas mais catastrophique. Paulo Lopez, on parle de deux bons gardiens. Attention, Ilan Meslier et Brice Samba pour le remplacer. Les pistes qui sont évoqués. Moi, je trouve que dans les deux cas, tu fais pas une mauvaise affaire. Si tu remplaces Paulo Lopez, que, évidemment, ce serait mieux, idéalement Brice Samba. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs gardiens français. Ouais,
et même et pour
en
la
plus,
symbolique
il y a une histoire,
aussi.
Voilà, symbolique de retour à l'OM pour Brice Samba qui a pas pu s'y imposer étant plus jeune. Ce serait génial pour lui d'arriver en tant que deuxième gardien de l'équipe de France titulaire à l'OM. Ce serait top. Mais même Ilan Meslier, franchement. Et puis il y a ce qui évoquait, on en parlait Nico en préparant l'émission, c'est David Guzman qui évoquait ça sur Twitter. Qu'on salue. Il a été formé avec Bielsa. Tu vois, ça a été le gardien de Marcelo Bielsa, ouais. Ilan Meslier, donc dans
le style de Zerbi.
Dans le style de Zerbi, tu sens que ça peut coller. Un gardien qui a l'habitude de repartir de derrière, etc., qui a un bon jeu au pied. Pourquoi pas? Moi, je trouve que les
messieurs,
les
alerte. Sont Julien Laurence est avec nous. Bonsoir, Julien.
Le vrai Julien.
Salut, Nico. Salut à tous.
Le vrai Julien. Faut qu'il s'habitue à parler en français maintenant, parce que là, il parlait indonésien pendant un quart d'heure avec la radio.
Et il est bilingue depuis une semaine.
Il a pris l'accent australien entre 19h30 et 20h aussi.
Oui, on fait ce qu'il faut.
Il revient, ça, il a pris du temps, là. Il rentre dans le stade de décompression.
Non, mais oui, Julien, il rentre chez lui en Angleterre.
Son cerveau est
il fait une pause euro, le pauvre, il est poursuivi par tous les médias.
Responsable de la précarité journalistique, hein.
Ah oui, il partage pas du tout, quoi. On dirait Fred Hamel, époque Madrid. Il lâchait rien, quoi. Qui prenait tous les médias. Bon, on parlait il y a quelques minutes, mon cher Julien, d'Ismaël Koné. Qu'est-ce que t'en penses? Watford qui va sûrement signer à Marseille.
Ouais, très belle saison en Championship, dans une équipe médiocre, il faut le reconnaître en plus. Vraiment, il a joué 46 matchs à courir 15 km par match. Et moi, je trouve que c'est un joueur que j'adore. Vous avez vu d'ailleurs avec le Canada contre l'équipe de France avant l'Euro, où il avait été très bon, j'avais trouvé, au milieu de terrain. Il a 22 ans. Pour moi, c'est vraiment un très joli coup de la part de.
À 12 millions, c'est pas mal, quoi. À 12 millions d'euros.
Ah, c'est, pour moi, c'est vraiment, c'est à ce prix-là en plus, c'est un super coup. Le seul inconvénient. Mais c'est pareil, tu l'as avec Jonathan David, tu l'as avec plein de joueurs, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une trêve internationale, il va devoir faire 10 000 km ou je sais pas combien de kilomètres pour rentrer jouer ses éliminatoires à lui, etc. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, comme les Sud-Américains d'ailleurs, ça peut être un peu problématique, mais bon, c'est vraiment le seul petit bémol que je mettrais à ce transfert-là et voilà, ça rentre même pas en compte, quoi.
Ilan Meslier serait une bonne idée ou pas pour pallier l'éventuel départ de Paulo Lopez?
J'ai entendu la fin de la conversation. Ilan Meslier, c'est beaucoup plus fort que Paulo Lopez.
Ah là Merci.
Ah oui.
Je me couche.
Sincèrement, hein, c'est un autre niveau. Ouais, c'est vraiment un autre niveau. Alors, pas le pied déjà. C'est un super gardien. Alors, parfois, il a eu quelques erreurs de concentration un petit peu parce qu'il était jeune aussi, parce qu'il jouait dans une équipe qui était, ne l'oublions pas, mais tu seras pareil avec l'OM de Desarmi.
Exposé, ouais.
Voilà, exactement. Mais sincèrement, je vous promets, je l'ai vu faire des matchs en première ligue avec Bielsa où il était exceptionnel. Exceptionnel. En plus, c'est un super garçon. On l'a eu sur RMC plusieurs fois. C'est un mec super intelligent. Il est vraiment posé. Pour moi, ce serait une super recrue et bien meilleur que Paulo Lopez.
Il a connu une montée avec les Océans.
Bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr.
Donc, il a quand même une certaine expérience.
Mais Julien, sur le côté erreur qui peut faire dans un match, parce que c'est un gardien qui repart de derrière, qui prend parfois des risques. Pour avoir suivi toute la saison de Leeds avec Bielsa, je parle de la saison de Championship, c'est un gardien qui peut te mettre dans des situations inconfortables aussi par moment.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça que je te disais. C'est vrai qu'il a eu quelques sauts de concentration qui, à un moment, effectivement, l'ont amené à faire quelques erreurs. Mais je pense que déjà, il est beaucoup plus mature maintenant. Il est plus expérimenté aussi. Il est bien redescendu. Sûr. Il a rejoué en Championship, qui est vraiment un championnat compliqué. Et pour moi, il est encore meilleur de ces expériences-là. Et j'ai aucun doute que s'il vient à l'OM, qui sera vraiment présent. Il y a un moment, il était vraiment proche de l'équipe de France. Il s'en est un petit peu éloigné, effectivement. Quand tu joues en Championship, c'est plus compliqué. Mais non, moi, je pense que ce serait vraiment, vraiment une très belle recrue.
Tiens, je vous dis rapidement, c'est important aussi, Lilian Brassi, hein, qui serait très proche de Marseille désormais, 11 millions d'euros, selon Fabrizio Romano, qui annonce quasiment pas un transfert, mais ce serait un prêt avec une option d'achat obligatoire à 11 millions d'euros pour Lilian Brassi. On en a déjà parlé, on en reparlera également. Tiens, Lyon, l'autre grosse info mercato du jour, qui a obtenu aujourd'hui le feu vert de la DNCG, aucune restriction de recrutement, et est en passe de signer surtout le défenseur central gaucher de Nottingham Forest, Moussa Niakate, international sénégalais, 28 ans, qui doit s'engager pour 4 ans. 31 millions d'euros à régler, ce qui en ferait le joueur le plus cher de l'histoire de l'OL. Julien, la somme nous fait bondir. Tu as des subtilités qu'on peut évoquer aussi. Sofiane, on peut en évoquer peut-être ou pas?
Je pense que, Julien le dira, je pense que c'est surpayé. 31 millions d'euros pour un joueur à qui reste 2 ans de contrat de 28 ans, qui, sur les deux dernières saison n'est pas un joueur qui brille par sa régularité, même si c'est dans une équipe qui est en difficulté puisqu'il jouait le maintien cette saison, Nottingham Forest. Mais je pense que dans les 31 millions d'euros, il y a un truc. Donc est-ce que c'est l'option de Mangala qui est intégrée,
l'option d'achat,
ouais. Ouais, l'option d'achat de Mangala qui aussi venait de Nottingham, qui est intégrée parce que Nottingham Forest, pour faire court, avait des soucis avec la DNCG anglaise et qu'ils ont besoin de cash avant la fin du mois de juin.
On peut imaginer que ça peut être 21 millions d'euros plus 10 millions d'euros, voilà, qui passent dans ce transfert-là pour faire rentrer du cash tout de suite
tout le monde
à Nottingham Forest.
Voilà, et puis Marinakis, président de Nottingham, qui est aussi le président d'Olympiakos. On a compris, c'est pas la vraie pierre.
Pardon,
quoi.
Mais 21 millions, c'est pas cadeau non plus.
Julien.
Mais ça correspond plus.
Non, mais c'est mieux que 31 quand même. 31, oui, c'est impossible. Mais personne dans le monde entier, n'importe où, n'importe quel club, n'importe quel niveau, aurait dit oui, d'accord, pas de problème. 31 millions, oui, pas de problème, j'y vais. C'est impossible.
Au-delà du montant, 21-31, Boniakate, ça reste un défenseur qui arrive à maturité. Alors, certes, il a eu pas mal de blessures. C'est un défenseur qui est plutôt fiable, hein, qui a montré des belles choses aussi à l'époque. Mais pour moi, globalement, ça reste une bonne recrue pour l'OM, pour la Ligue 1. Ça peut être entre guillemets, hein, suffisant, mais ça reste un défenseur intéressant, titulaire avec le Sénégal. Attends,
Julien.
Hein, pas oublié, hein.
Julien, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est encore une fois, hein, c'est une très bonne personne. Yes. C'est quelqu'un qui est vraiment très bien. Donc moi, de ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, etc., j'ai trouvé beaucoup de négativité. Alors, c'était peut-être à cause du prix. Hein, et encore une fois, le prix, on va attendre un petit peu.
C'est pour cela que j'insistais. Ouais.
T'as raison. Oublions le prix juste pour oublions le prix, parce qu'effectivement, s'il y a un montage ou quelque chose derrière, ça sert à rien qu'on le juge sur le prix, alors que le prix serait pas forcément à prendre en compte de cette façon-là. Mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi, à 28 ans, c'est un joueur qui est international, qui est vraiment solide physiquement, dans un championnat de Ligue 1 qui est physique, qui en plus vient de passer plusieurs saisons en Première Ligue où il a fallu qu'il charbonne, il a fallu qu'il s'accroche.
Bonne relance, c'est pas toujours facile.
Pardon?
Bon défenseur à la relance.
Oui. C'est pas sa qualité première, non. Mais c'est un pied gauche, donc un pied gauche, c'est en général pas mal par rapport à certains.
C'est mieux que ce que Lyon. Ouais. C'est mieux que ce que Lyon.
Oui.
A quand même.
Ça c'est sûr. Mais c'est pas là où il brillera. Il brillera plus dans le contact physique, dans le duel. C'est ça. Donc à côté, mets-lui quelqu'un qui est capable peut-être de relancer un peu plus proprement et tout ça. Ça fera très bien l'affaire.
Il y a deux trucs quand même qui sont importants. C'est pas un cavalier seul de Textor. C'est-à-dire que la cellule de recrutement de l'OL a validé comme le profil. Faut faut le dire, parce que parfois Textor il fait ses trucs dans son coin. Donc là la cellule a validé, après ils sont pas responsables du prix qui est pour moi lunaire. Moi là où je suis pas d'accord, c'est que le prix quand même, il est quand même à prendre en compte, non pas pour juger le niveau du joueur, mais quand même dans un mercato, si les mecs voient que Lyon met 31 millions d'euros et tout le monde sait que c'est surpayé, je trouve que ça fait pas sérieux.
Voilà,
ça
fait pas sérieux. C'est 15 et 15. Juste c'est 15 et 15.
Social, c'est aussi pour répondre à une demande de Pierre Sage d'avoir un défenseur gaucher.
Mais le profil il est OK. Mais
je pense que dans l'univers du foot, ils vont comprendre le montage financier. Donc savoir que Lyon n'a pas lâché de manière excessive 31 millions d'euros pour un tel joueur.
Et juste pour vous dire, c'est que une sensation comme ça, je vous la donne, c'est que ça sera beaucoup plus haut, il y a un montant de transfert qui va être plus haut que 31 millions d'euros dans l'été.
Tu peux pas nous laisser comme ça, ça n'a pas de sens.
Ça sera pété cet été.
Il veut revenir.
T'as le nom déjà du joueur ?
Non, ouais, mais je vous le dis.
Ils vont envoyer.
Si j'avais le nom, je l'aurais dit.
Ils vont monter à 50 pour un joueur.
Quoi. Je sais pas. Mais 31
pour un numéro 9, donc évidemment, c'est un numéro
31
9.
31 millions, c'est que le début.
Waouh. Bon.
Ok.
Julien, en quelques secondes sur Mason Greenwood, parce qu'on a parlé de Mason Greenwood, il y a intérêt marseillais. On est loin d'un accord, évidemment. Ce serait une bonne idée ou pas ? Il y a la question éthique, bien sûr. Hein, un homme qui est. Bon, certes.
Vas-y. Ouais, la question, elle est que éthique finalement, hein. Ouais, parce que ça. Si on regarde que le talent du joueur, il y a aucun doute là-dessus. Depuis très très jeune, de toute façon, il a toujours été très fort, il a toujours été très prometteur, très talentueux, tout ce qu'on veut. Après, effectivement, c'est là où on se place par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie privée à lui, où on veut arrêter finalement ou mettre la limite finalement. Donc voilà, il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Il est offert partout, mais vraiment partout. Hein. Donc voilà, Manchester veut vendre. Par exemple, pour Manchester, il peut pas revenir. Après ce qui s'est passé dans sa vie privée, c'est pas possible. Donc peut-être que pour l'OM, c'est différent et que pour Pablo Longoria, ce qui s'est passé dans sa vie privée par le passé ne compte pas et que lui regarde que le joueur de foot et pas la personne et que ça suffit.
Annoncé à la Juve aussi, hein, notamment.
Oui, le Napoli s'intéresse aussi à lui. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Julien, merci. Très bonne soirée à toi. Bon repos.
Merci les gars.
Tu sais quoi ton programme ? Tu seras où prochain match ?
Je serai à Italie-Suisse.
Magnifique.
Il est partout, le type.
Il est partout.
C'est ça. Incroyable. Non, mais je penserai à vous.
Bonne soirée à toi, Julien. Embrasse tes amis. Ciao. Les gars, pour vous dire rapidement, masse salariale encadrée pour le Havre. Après passage devant la DNCG au Havre, on n'est pas surpris. On crie au scandale après la répartition CVC. Ils n'ont pas touché un euro, les pauvres.
Raison.
C'est des dindons de la farce, des cocus d'histoire. Ils ont raison de s'en plaindre. Bordeaux qui échappe pour l'instant à la rétrogradation administrative. Négociation avancée entre le club et un fonds américain. Selon Gérard Lopez, peut-il le croire ? En tout cas, un apport entre 70 et 100 millions d'euros qui viendrait combler notamment les 30 millions d'euros de dette. Gérard Lopez a jusqu'au 9 juillet pour conclure le deal. Et puis là, Ajaccio a été relégué en national, mais a fait appel. Et je voudrais avoir une pensée également pour Landrine Guémeau, ancien bordelais notamment, et pour ses proches surtout, ex-milieu de terrain camerounais qui est décédé dans un grave accident de voiture au Cameroun. Il avait 38 ans, c'est un très bon gars en plus, Landry.
Très bon gars, ouais.
Voilà, pensez pour lui et sa famille surtout. Dans un instant, le quiz de l'after. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After. Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Jimmy Brown. Bonsoir Walid.
Et Nico, salut à tous.
Mais qui vient en patron là, il se pose autour de la table.
Patron.
Je sais pas, tu viens un quart d'heure avant l'émission maintenant, monsieur fait l'after, tu sens bourgeois.
Aujourd'hui, mais
il a fait tomber les lunettes.
Quand je viens à 15h à la rédac, tu me dis qu'est-ce que tu fais là, rentre chez toi,
non,
etc.
C'est parce que
et là, je viens à 21h. Je te manque, c'est ça ?
Trop d'écart entre ton investissement dans Génération After et dans l'After.
Ah d'accord, ok, d'accord.
Nous, tu veux nous voir pour la blague et l'After, tu bosses chez toi jusqu'à 21h30, et tu fais des fiches.
Ah ouais, okay.
Et voilà quoi.
Ah, tu dis ça aux gens, c'est pas beau.
Tu laisses pas chauffer, Walid.
C'est Ricardo est là également. Sofiane est là aussi, Jimmy toujours, et Jacques et Jérôme Thomas. Bonsoir Jérôme.
Salut Nico, salut à tous.
Car c'est l'heure du quiz de l'After.
RMC, le quiz de l'After.
J'accueille deux auditeurs de l'After et Génération After qui vont choisir une équipe. Je rappelle qu'on aura une équipe à ma droite, Walid, Ricardo, et à ma gauche, nous aurons Jimmy, Sofiane. Bonsoir Grégory, bonsoir Kevin.
Bonsoir After.
Salut les gars. Vous allez pouvoir choisir votre équipe si vous répondez bien à la question suivante. Depuis qu'il a entamé son régime, combien de kilos a perdu Walid Acharchour ?
30.
6.
Qui a dit 6 ?
Greg.
Greg a dit 6. Kevin, tu dis combien ?
10.
10 kilos. Walid, qui est le plus proche ?
6.
Si, bravo Greg, tu choisis ton équipe.
Parce que c'était 7 hier.
Mais oui, t'as pris 1 quoi.
Mais 6 qui est plus proche.
C'est 6 qui est plus proche.
La question.
Grégory, tu peux jouer avec Walid et Ricardo ou avec Sofiane et Jimmy ?
Jouer avec Walid.
Ah, merci, c'est gentil.
Très bien.
Et Ricardo.
Grégory.
Il y a pour gagner ce soir ?
Il y a un bomber shot, évidemment.
Un bomber shot, il fait 38 degrés dehors.
Et alors,
ben, il faut mettre de côté, garçon. Mettre de côté, il n'y a pas un t-shirt.
C'est pas un truc que tu manges, en fait.
C'est collector, un bomber shot, au respect.
Collector, d'accord.
Prenez deux tailles au-dessus, vous le mettez dans 8 mois.
On y va. Sofiane, Jimmy et Kevin ensemble contre le trio Walid, Ricardo et Grégory. C'est parti.
On y va. Premier quiz, chalant ou nonchalant?
C'est sûr, faut travailler parce que j'ai plus un style de nonchalant. Comme on dit, je suis pas très chalant.
Question très facile sur l'euro en cours. Évidemment, ce sont des questions de rapidité. Tout le monde joue. Quelle est la seule équipe de cet euro à avoir fait carton plein? Trois mois, je
te
prends.
C'est
Walid ici.
C'est ici tous les jours.
1-0.
Tous les jours.
Bah non, que jeudi.
Ah si, si.
Question de rapidité. Quel fut le match le plus prolifique?
Le 3-2 de l'Allemagne-Autriche.
Non.
Qui a dit Allemagne-Écosse?
Oui.
Qui?
Greg.
Greg.
Il est avec nous, Greg.
2-0, Walid. Avec nous, Ricardo.
Super, Greg.
Bravo, Greg.
C'est qui notre copain, pardon? L'autre?
Kevin.
Allez, Kevin. Allez,
question à la con. Quel joueur belge que les Bleus vont affronter lundi est toujours prêt au combat?
Castagne.
Ah, ah, dès qu'il y a de l'esprit,
il y a la culture, dès qu'il y a des jeux de mots.
Il n'y a pas la culture, mais l'esprit.
T'es chaud.
Ça
permet à Walid de découvrir des mots.
La prochaine, c'est la
castagne.
Ça fait donc 51.
Il y a Baston aussi.
Borja Baston.
Ah oui,
Borja Baston.
Il est pas belge. Turquie-République tchèque a été un match record. Pourquoi?
Les cartons.
Alors attention, si t'as le chiffre exact, point de bonus.
Ah, je peux pas te dire. Je vais dire comme ça au hasard, 8. 17 cartons.
Oh, dommage, c'était 18.
Ah, ah,
16 jaunes.
Il y a deux partout. Les amis.
C'est chaud, gros.
On va faire un duel Walid-Jimmy. Citez-moi un joueur suspendu pour les 8e. Il y en a 10.
Calafiori.
Excellent.
Je l'avais pas.
Greg, Ricardo, Walid, on prend la tête.
Bien au pressing.
Par contre, Ricardo, s'il peut revenir de la régie pour jouer avec nous, ça sera pas mal.
T'inquiète pas, Grégory.
Il a, Ricardo.
Question de rapidité. Quel joueur de la sélection suisse est cousin de Jérémy Pied, Florent Mollet, Frédéric Ney? Jérémy Pied, Florent Mollet, Frédéric Ney. Doigt.
Ah oui, Doigt, bravo.
Je ne trouvais pas. Bravo.
Trois partout.
Duel Ricardo Sofiane. Qui a dit ces pauvres Belges, ils me font de la peine. Je les trouve totalement à côté de la plaque. Bien sûr, ils ont des individualités, mais je ne vois pas en quoi on peut avoir peur.
Franchement,
il souffle un mec, un casse sur les oreilles.
C'est quelqu'un qui l'a dit à l'antenne dans une émission précédente.
Roten.
Dugarry. Bravo Sofiane.
C'est petit qui a dit ça, non?
Non, c'est Christophe Dugarry. Hein,
d'accord.
4-3.
On enchaîne deuxième quiz, c'est parti, quiz à la con.
Avec les cons qu'il y a là.
Ah, je l'aime celui-là.
C'est con, on va s'en occuper.
S'il te plaît. Double actu en ce moment, le foot et la politique, donc on va faire un quiz foot politique.
Ah ouais, d'accord. Donc,
on y va, tout le monde joue. Quel ancien président français a tenu tête aux Bleus lors de la phase de groupe?
Mitterrand. Hollande, les Pays-Bas.
François,
Hollande.
Bravo. Allez, 5-3 pour Grégory. Et pour Kevin, Jimmy Sofiane.
Quel homme politique est l'ancien équipementier de Nice?
Macron.
Oui, Macron. Il est là. Macron, magnifique.
Il n'a pas dit Macron au passage.
On a entendu un Macron de loin qui est Florent Gautreau, mais bon. Non, c'est pas toi, là.
Non, Flo, c'était Flo Gautreau, s'il vous plaît.
Quel ancien international français appelait-on le président?
Blanc.
C'est
Jimmy. Arrête de montrer la
main.
C'est Jimmy.
Non, c'est moi.
Allez,
6-4, c'est pas terminé.
De quelle femme politique française le brésilien de Tottenham Emerson
Royal.
Magnifique.
Bravo.
6-5, c'est chaud. À partir de ce petit extrait sonore, trouvez le nom d'un homme politique. C'est parti.
Plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Quel homme politique a plusieurs arcs à son flèche?
Quel homme politique a plusieurs arcs à son flèche?
Il est président d'une des deux chambres.
Larcher.
A eu un rôle central lors de l'Euro 84, puis 40 ans après, Hidalgo. Pour les JO.
Hidalgo.
Froid le mec, rien, il dégaine.
Vous êtes joué, franchement.
7-6, c'est 7-6. Dernière question sur ce quiz. Quel joueur lyonnais actuel a pour prénom un ancien président des USA?
Aubrey
Greg, bravo.
Et les gars, c'est unique. C'est le dernier quiz de la saison.
On a des nouvelles de Kevin?
Et c'est extrêmement chaud. 7 partout. 7 quiz.
Sofiane est là ou il est parti déjà?
Nouveau quiz à la con. Sofiane est toujours là.
D'accord. T'inquiète pas, buzzer beater, c'est pour moi.
On y va, troisième quiz.
Allez.
Avec les cons qu'il y a là. Parce qu'il y a des cons.
Allez, Ricky. Allez, Greg. Allez.
Les cons, on va s'en occuper.
Et maintenant, Kevin.
Celui-là est très très con. Vous allez entendre des extraits. Court, extrêmement court, des extraits de rire. Ça dure en gros, en moyenne, une seconde et demie, deux secondes. Et vous devez me trouver qui rit.
Ah ouais,
qui se cache dans l'extrait. Okay. Okay. On y va. Tout le monde joue, évidemment. Et le
c'est
premier question de rapidité.
Il va, c'est lui qui va
y aller. On y va avec celui-là, c'est parti. Troisième rire, c'est parti, Kiri.
Je veux Ribois.
Bribois.
Ils prennent la tête, Walid, Ricardo, Greg.
Attention,
9-8.
Peut-être un peu plus difficile. Qui a ce fou rire?
Gilbert.
Non.
L'Hermel.
Non.
Villas.
Non.
Tu peux remettre.
On va le remettre. Allez, on le remet. Charbonnier.
Non, c'est parti, on le remet.
C'était pendant un affaire.
C'était la Coupe de la Ligue. Voilà, incroyable. 9 par Drouet, c'était incroyable.
Qui rit?
Roland Bus.
Non.
Fred.
Hermel.
Non. Fred.
Vous êtes sérieux, les gars, là?
Hein? C'est Roland,
non?
Mais non,
non.
Allez, on peut le réécouter.
Ouais, bien sûr. On va écouter.
Il est pas là.
Quand même.
C'est pas en Roland.
Allez, on continue, les gars.
Charbonnier.
Roten.
Vous écoutez pas.
Allez, on le remet
vous
encore une fois.
On y va.
Moscato.
Moscato.
Oui.
Ah ouais.
Les gars, c'est chaud. Il y a 10-9 pour Greg, Ricardo et Walid.
Il m'en reste deux.
On y va.
Si Ricardo et Walid mettent ce point,
on a gagné. Allez.
Balle de match.
Allez, balle de match.
Kiri.
Roland Orbis.
Non.
Hermel.
Non. On entend plusieurs rires, mais le principal. Vas-y, on le remet.
Cazard.
Tim, on remet le rire.
Non.
Où c'est Tiffany? Denis.
Non. Personne là.
Villas.
Non. Personne là, c'était Jérôme Roten.
Ah ouais.
Alors, c'est la balle de match. Soit égalisation, soit victoire.
Non, on fait vraiment un quiz, on doit reconnaître les rires là.
C'est le dernier.
Kiri.
Qu'est-ce que c'est fort.
Victoire sur les rires. Il y aura plus les rires pour gagner un quiz. Bravo.
11-9 de Walid, Ricardo, Grégory. Tu gagnes un Bomber Shot. La casquette pour Kevin.
On t'a mis bien, Greg.
Gagné sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott. Ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Terminé pour Génération After, mais la soirée n'est pas terminée puisque l'After prend le relais avec Thibaut ce soir, Thibaut Jean-Grande, Flo Gautreau et Walid Acharchour. Très bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.